Qui a dit, et ce sera pour Sylvie Rocha, qui habite 13 ans en Vendée, qui a dit « Le 1er janvier 1945, à Hiroshima, les gens s'étaient souhaité une bonne et heureuse année. »
Oh là là.
Pierre Desproges, non.
Coluche.
Pierre Dac, non. Vous avez dit Desproges parce que c'est vrai que Pierre Desproges avait une citation qui était pas loin dans le genre. Ouais. Je l'ai d'ailleurs. Sur 100 personnes à qui on souhaite bonne année, bonne santé, le 1er janvier, 2 morts d'atroces souffrances avant la Pentecôte. Ça, c'était Desproges.
Daniel Prévost.
Non.
Il est jeune.
Mais lui, on le connaît mieux et il a dit le 1er janvier 45 à Hiroshima, les gens s'étaient souhaité une bonne et heureuse année. Quand je dis on le connaît mieux, c'est parce qu'il fait partie des grosses.
Ah, c'est Gueluc.
Bigard. Philippe Gueluc, bonne réponse de Bernard Mabir. Une citation pour Jérémy Lazzarotto qui habite les Abrés en Dauphiné, c'est dans l'Isère. Et là, on va pas parler du jour de l'an, mais de Noël. Hein. C'est pas si vieux. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël.
Ah,
vous avez
excellent.
Oh là là.
Des beaux cadeaux.
Ah, j'ai eu un mec sous la neige, vous savez, dans une boule. On le retourne et hop, il est toujours là. Hein, parfait.
Moi, j'ai eu le même, mais pas sous la neige.
Noël. Alors, écoutez bien la citation qui a dit Noël sert à rappeler à ceux qui sont seuls qu'ils sont seuls, à ceux qui n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas d'argent. Et à ceux qui ont une famille de merde, qu'ils ont une famille de merde.
Édouard Philippe.
L'abbé Pierre.
Non, Jean-Yann.
Jean-Yann, non.
C'est français ?
Alors, français, non.
Non, mais c'est belge.
Non,
c'est québécois.
Non, pas du tout.
Non, c'est anglais.
Ce n'est pas anglais.
C'est européen.
C'est irlandais.
Même si c'est quelqu'un qui est mort à Los Angeles en 1994, mais il était né en Europe.
Charlie Chaplin,
non. En 94.
Ah, oui, c'est vrai.
Il parlait le français couramment.
Oui, je crois qu'il parlait français un peu.
Donc ça a pu être prononcé en français.
Vous avez mal à la gorge.
Oui, un petit peu.
Bernard, je me rends compte. Qu'est-ce qui vous arrive?
Je sais pas.
Il va jouer dans le biopic de Jeanne Moreau.
J'ai dû dormir tout nu ou un truc comme ça.
Vous avez dormi tout nu?
C'est possible, oui.
Qui a dit Noël sert à rappeler à ceux qui sont seuls qu'ils sont seuls, à ceux qui n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas d'argent, et à ceux qui ont une famille de merde qu'ils ont une famille de merde.
C'est un
Coluche.
Non,
ah bah non, mais mort,
Un écrivain qui a dit ça.
Un écrivain.
Je vous ai dit mort aux États-Unis, mais né en Europe.
Il n'était pas autrichien.
Miller.
Comment ça, Miller?
Hervé Mirlier,
Arthur Miller.
Qui a dit Hervé Villard?
Mais, à votre avis.
C'est Plaza. C'est
l'autre. Ça aurait pu, hein.
Ah bah Michel Thor aussi, oui.
Elle est vivante.
Ah oui.
Le Premier ministre cherche un compromis, on l'a, c'est Plaza. Mon écrivain, là.
Thomas Bernard.
Comment vous dites? Qui?
Thomas Bernard.
C'est pas bête, on se rapproche.
Twin. Twin? Non,
c'est qui ça?
C'est deux doigts coupe fin.
C'est Mark Twain. Ah, c'est Mark.
Oh là là. Mark Twain. Attendez, je suis dyslexique. Hein.
Non. Faut que je vous explique. Stéphane Plaza a une assistante. Je sais tout. En plus, elle me l'a raconté. Il a une assistante qui lui fait des fiches culture.
Non.
Si. Et il révise plusieurs fois par semaine. Sauf qu'il retient pas. Alors, elle a dû lui parler de Mark Twain, j'imagine.
Oui, mais ça se dit Twin en américain.
Mais comment elle s'appelle?
J'ai raison ou j'ai tort?
Oui, vous avez raison un peu, enfin sur toute la ligne.
Ah, ça attends, elle te fait des fiches culture.
Ouais. Bah, elle ne fait pas que ça, dis donc, Bernard.
La petite blonde. Ouais.
De toute façon, ça n'est pas Mark Twain qui n'était pas né en Europe.
Non.
Ah bon?
Non.
Merde.
Mais non.
Je l'ai viré. Bon, mais est-ce quelle nationalité européenne, alors?
Est-ce qu'il a été adapté au cinéma?
Adapté au cinéma, j'en suis pas certain. Non.
Ah. À la télévision?
À la télévision?
Non.
On se souvient de lui à la télévision dans une séquence mémorable.
Charles Bukowski.
Charles Bukowski, bonne réponse de Florian Gazan. J'ose à peine vous donner la dernière citation. Ce sera pour Christopher Chevillon, qui habite Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, qui a dit « Vous savez que vous êtes laid si vous allez chez le proctologue et qu'il enfonce son doigt dans votre bouche. »
Jean-Phil a dû y aller souvent.
Ouais, mais on va pas dire JTD.
Il s'agit d'un acteur scénariste américain qu'on a déjà cité une fois ou deux aux grosses têtes en 5 ans, mais qu'on a rarement cité, qui était très très drôle.
Bob Hope?
Non, pas Bob Hope.
George Clooney?
Non.
W.C. Field?
W.C. Field, non.
Il est mort?
Et je sens que ça va être 300 euros pour Monsieur Chevillon de Saint-Herblain.
Il est mort?
Ah oui, il est mort.
Il y a longtemps?
Il est mort en 2004, il avait 82 ans.
Ah, quand même.
Lenny Goodman?
Mickey Rooney?
Comment vous dites?
Lenny Goodman.
Lenny Goodman, c'est pas bête, mais
Mickey
non.
Mickey Rooney?
Mickey Rooney, non.
Non.
un acteur scénariste américain.
C'était un acteur genre séduisant plutôt.
Pas spécialement.
Pas spécialement comique, un acteur comique.
J'ai une photo de lui, il a 80 ans, c'est difficile à dire.
Oui. Mel Brooks.
C'était un acteur comique.
Alors oui, comique. Oui,
Mel Brooks.
Oui. Mel Brooks, non.
Rodney Dangerfield.
Comment vous dites?
Rodney Dangerfield.
Excellente réponse de Florian Gazan. Rodney Dangerfield. Une question pour Robert Ogomat, qui habite Saint-Jean-la-Poterie, dans le Morbihan. Qui déclara, avant de mourir, « J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. »
Il a dit tout ça tout seul ?
Oui.
En mourant ?
Et il n'était pas tout seul en mourant.
Mais oui, parce que donc il ne parlait pas de lui à la première personne du pluriel.
Les bourgeois de Calais.
Les autres sont morts avec lui ?
Alors, il y a deux autres personnes qui sont mortes avec lui, mais il y en a surtout un qu'on connaît qui est mort avec lui. Et c'est vrai que cette déclaration valait pour les deux.
Est-ce que c'était en France ?
Pardon ?
C'est pas les frères Goncourt.
Ah, les frères Goncourt.
Est-ce que c'était en France ?
Ce n'était pas en France.
Est-ce que c'était en Algérie ? En Algérie ?
Pendant une guerre, non. En Algérie, non.
Aux États-Unis ?
Aux États-Unis, oui. Vous voulez que je vous redise exactement la phrase ?
Oui, parce que
ça peut aider.
J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu'on nous prenne nos vies. Vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons.
Ah, ça n'est pas un pasteur.
Non.
Ah oui, c'est oui, pas
deux condamnés à mort.
Deux condamnés à mort.
Mais oui, mais oui.
Sacco
mais
et Vanzetti. Oui.
Pardon ?
Sacco et Vanzetti.
Sacco et Vanzetti. Bonne réponse. Allez,
ah, la musique était canon, la musique du film.
Sacco et Vanzetti.
Dearest to you, Nicolas et Bach. Quel chanteur,
best forever, it's in my heart.
Voilà, un bel hommage à John Bell.
Elle est là. Voilà.
Et c'est vrai que c'est cette chanteuse folk qui a créé cette chanson pour Sacco et Vanzetti. Magnifique chanson.
Quelle année ça ? C'est toute mon adresse.
On est dans les années 70.
Ah,
et vous vous souvenez qui a fait la version française de cette chanson ?
Sacha Distel, sûrement.
Non, Marie Laforêt.
Mais non. Georges Moustaki. C'est,
déjà, oui,
c'est Georges Moustaki qui avait fait la version française.
Maintenant, Nicolas et
ça alors, je la connais même pas celle-là. Oui, oh. Gros dodo. Gros dodo.
Elle a adapté aussi la chanson de Boris Vian, le
déserteur.
Le déserteur.
Vous faites une lettre, monsieur le président. Vous l'avez interviewé pour Le Point ? Non, c'est
non,
pas vous.
C'est pas moi.
C'est
non.
Anne-Sophie Jeanne qui l'a interviewé. Vous l'avez rencontré déjà, John Bez ?
Non, croisé, non. Disons, après un concert.
Elle est jolie, hein. C'est
oui,
très jolie.
Très
ça, c'est drôle parce qu'on
a déjà eu.
On a déjà eu cette conversation où vous la trouvez très jolie.
Oui.
J'avoue que parfois vous êtes un peu seul sur ce coup-là.
Non, elle est belle.
Elle a des caractéristiques extraordinaires.
Elle a beaucoup d'allure.
Mais elle n'est pas jolie.
Elle est belle.
En tout cas, aujourd'hui,
c'est beaucoup d'allure.
Muriel Robin nous dit qu'elle a dîné avec elle la semaine dernière.
Oui, dans une émission de télé, et je dois dire que la classe.
Comment ça se fait que vous êtes retrouvée à dîner avec John Bez, Muriel Robin ?
Une émission de télé où on sert
au catering
un dîner.
Ah, aussi. C'est à vous, hein, c'est à vous.
Exactement.
Ah, vous savez qu'on mange. Hein. Vous mangez, vous, c'est à vous.
Très bonne émission.
Oui, je mange.
Ah, vous, moi, je mange jamais. Parce que toi, je suis pas beau quand je mange.
Mais moi, c'est beau quand je mange.
Il faut manger.
Moi, je suis beau quand je digère.
Non, mais vraiment, au moment où la caméra
vient
sur
mâche.
Nous, on est en train de mâcher.
Il ne faut pas mâcher quand il y a la caméra.
Mais faut dîner. Surtout, il faut éviter le persil, tout ça.
Non, mais il faut dîner parce qu'ils font des efforts pour que ce soit beau.
Ah,
et en général, ça l'est.
Ah, oui.
Simplement, vous pouvez manger à un moment où vous n'êtes pas interviewé, voyez-vous, Laurent.
Ça dépend ce que vous mangez. Si vous mangez du couscous, pardon, là, ça projette beaucoup.
Mais vous êtes dur avec vous. Vous êtes beau quand vous mangez aussi. Hein.
Ah oui,
c'est très beau.
Ah, oui, je vais vous dire, je me demande même s'il n'est pas beau, surtout quand il
question qui concerne un peintre strasbourgeois qui s'appelle Arsène Heitz. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse ces jours-ci de monsieur Arsène Heitz ?
On a retrouvé une de ses toiles ?
Oh non, on ne peut pas dire ça.
Il est mort vieux ?
Oh, écoutez, il est mort, il avait 89 moins 8, 81 ans.
On a vendu ses œuvres aux enchères ?
Pas du tout.
C'est une toile de lui qui fait parler ?
Ah oui, qui fait beaucoup parler. C'est vrai que M. Macron lui-même, d'ailleurs, en a parlé. Peut-être même vous l'avez vu, ce peintre.
Alors ah,
c'est le petit-neveu de Macron ?
Non.
Parce qu'il a donné ses œuvres à une association ?
Pas du tout.
Est-ce que ça concerne une toile précise ou l'ensemble de son œuvre ?
Ça concerne une toile, le mot n'est pas juste, mais quelque
ah,
chose.
C'est à voir avec le ruissellement ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il y a une toile, je crois que c'est ce peintre qui a fait une espèce de manège, on voit les pauvres tout en bas.
Ah non, pas du tout.
Après, il y a les classes sociales qui montent,
ah
et
non,
un seul
pas
qui ruisselle.
Aucun rapport.
Parce que ça, une de ces toiles, ou même plusieurs de ces toiles, vont au Louvre de Metz ?
Non, non plus, non.
C'est la façon de reproduire l'eau ?
Non, il est l'auteur de quelque chose que tout le monde connaît, M. Arsène Haïk.
C'est un ruisseau. L'euro, c'est le billet de l'euro.
Non, pas du tout.
Une marque publicitaire.
Non plus.
Ça a à voir avec l'Europe.
Ça crée la polémique d'ailleurs, pardon.
Le drapeau européen.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le bleu avec les étoiles autour.
Effectivement, le bleu avec voilà. Les fameuses étoiles. Et pourquoi ça crée la polémique ?
Parce que certains envoient un symbole de religieux, de la Vierge, des apôtres. Et puis bon, pour dire tout ce qu'on veut, tout ça, une stupidité totale. C'est encore nos amis insoumis qui ont trouvé un signe religieux là-dedans. Alors c'est simplement...
Ah, mais, c'est là, là. Mais non, c'est pas vrai, parce que M. Arsène Haïtz, l'auteur du drapeau européen, effectivement a déclaré que c'est en lisant l'introïte du 15 août, l'Assomption de Marie, qu'il a eu cette idée. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. C'est la couronne de la Madone qu'on voit effectivement sur le drapeau européen.
D'accord.
C'est ce que dit en tout cas le peintre. C'est ce qu'il a dit à l'époque, Arsène Haïtz. Mais c'est une bonne réponse de Jean Benguigui.
Oh, il est fort, ce Benguigui.
Non, mais c'est pas parce qu'un peintre a des hallucinations qu'il faut faire de la polémique. Hein.
Mais oui.
De la polémique. Après, c'est du n'importe quoi. Bientôt, on va pouvoir même pas respirer.
Vous avez des jolies étoiles.
Vous
avez des jolies étoiles sur votre robe, par exemple.
Elle scintille.
Et encore, t'as pas vu sa lune.
D'où elle vient, cette robe avec des belles étoiles?
Elle est
comme
brésilienne.
Ah, c'est une. Voilà, ouais, c'est brésilien.
C'est unisex.
Bah, ma mère, elle a le même truc, sauf qu'elle fait un canapé.
Ah oui. Comment elle va votre maman ? Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle.
Oh, elle va bien. Elle est en plein travaux de couture. C'est pour ça que ça m'intéresse.
Oui, bien sûr, je viendrai t'aider.
Qu'est-ce qu'elle fait comme travaux de couture ?
Ah ben là, elle fait des rideaux pour toute la maison, tout des grands métrages.
Hein, t'as refait le visage aussi.
Moi, elle m'a tout appris. Je sais tout faire. Les ourlets, les rideaux, les lampes, les robes.
Et pourquoi elle refait ses rideaux ? Elle n'avait pas de rideaux à la maison avant ?
Si, mais bon, à un moment, il faut les changer quand même.
Faire plus moderne.
La tendance des rideaux, c'est le tweed. Et parce que moi, j'ai mis un des rideaux en tweed chez moi à l'entrée. C'est magnifique.
Tu vois, il y a des débats ici.
Oui, la tendance pour les meubles maison, c'est un peu comme on s'habille, nous. Pourquoi tu rigoles, chérie ?
Parce que tu me fais rire, j'imagine des rideaux en tweed chez toi.
Oui, je fais une photo de moi devant les rideaux.
Oui, bien sûr.
En train de se faire tringler.
Mais oui.
Non, écoutez, Christina, pas n'importe quoi.
Mais c'est vrai, chérie, je te jure.
Et des doubles rideaux, elle fait aussi votre maman ?
Oui, ben l'ensemble de la fenêtre, si vous voulez.
Et voilage plus rideau.
Non, voilage, elle ne se fait plus.
Elle a une machine à coudre, alors elle fait ça elle-même.
Ah oui, et puis les machines, tu vois, il faut changer la canette et tout. Mais oui. J'adore ça.
Et le fil, tu sais mettre le fil dans l'aiguille.
Ah oui, je sais l'enfiler, oui.
Ah ben oui.
Ta mère. Et après, ta propre mère.
Après, tu fais c'est incroyable.
Mais non.
Tu aides à enfiler ta propre mère.
Oui, ben je suis du Nord. J'ai une machine, tu sais, qu'elle m'a offert. Ça s'appelle une surjeteuse, tu sais ce que c'est?
Ah bah oui, c'est
ça coupe le tissu en même temps que ça le coud. Tu vois, par exemple, tu prends ta robe, machin, et tu ne fais pas un patron à découper comme ça. Tu te dis, oh, je vais faire comme ça. Et tu ressors, pof, t'as ta robe. C'est incroyable.
Moi, je sais pas ça, chérie, c'est pas qui est ça. La couture, c'est pas juste comme ça, et paf, t'as ta robe. C'est pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Bah, quand tu vois comment t'es habillé, on dit que si. Mais enfin, si vous avez des travaux de couture, des menus de travaux, donnez-les. Moi, j'aime bien. Moi, ça me calme. Ça me détend.
Et t'as ta machine avec toi à Paris ?
Ah ben, j'ai comme un petit coin couture à la maison, oui.
Ah ben oui, c'est bien normal.
Oui,
c'est vrai ?
Ben oui.
C'est vrai que vous ne nous avez pas invités chez vous. On aimerait bien voir.
Ah, je l'attendais, ça. Mais c'est prêt. Alors, c'est pas très grand. C'est très modeste chez moi, mais ça peut vous recevoir.
C'est très beau.
Mais oui,
c'est
chérie, on veut connaître chez toi, chérie.
Ben avec grand plaisir.
Il faut que tu fasses une crémaillère.
Vous n'êtes pas allergique aux chats, parce que j'ai une chatte à la maison. Il y a du chat.
Ah ben, tu vois.
Il y a ma chatte Duchesse.
Duchesse, elle s'appelle.
Duchesse, elle s'appelle.
Oui, ben, c'est un nom de chat de pédé.
Des fois il y a des prétendants qui viennent à la maison, mais j'ose pas appeler ma chatte Duchesse parce que tu vois, j'essaie de me la jouer un peu viril. Je me... Et quand elle cherche, je fais Raymond, viens ici.
Une question pour Monsieur Thierry Vetzoli qui habite Vaudreuching en Moselle. Une question pour le professeur Rollin, puisque je vois qu'aujourd'hui, il a l'air vraiment...
Très
à cheval.
Écoutez bien, professeur, c'est pour vous.
Mais les autres aussi, quand même, ont le droit de...
Qu'est-ce qu'un anacyclique ?
C'est de la rhétorique.
C'est quelqu'un qui n'a pas de cycle.
Non, un anacyclique.
C'est un type qui s'est mis un vélo dans l'anus.
Non,
non, un ananas.
Non, Anna, il n'a pas. C'est le préfixe privatif.
Un anacyclique.
Donc. C'est quelqu'un qui n'est pas lunatique ?
Non, et... du tout.
C'est un trait caractère ?
Évidemment, c'est dans la langue française.
C'est une figure de rhétorique ?
Alors oui, c'est effectivement une figure de style, de rhétorique. Pas de rhétorique, mais de style.
Un trope.
Qu'est-ce que vous appelez un trope ?
Un trope, c'est une figure de mots.
Vous savez ce que c'est qu'un acrostiche, monsieur,
oui.
Monsieur Rollin ?
Oui, oui, moi, bien je sûr. Sais,
alors allez-y, dites, c'est quoi un acrostiche ?
C'est des rajouts capillaires.
Un acrostiche, bah, c'est un... c'est un message qui passe par la première lettre de chaque...
Voilà.
Et on refait la phrase.
Un poème dans lequel les lettres ou les mots initiaux de chaque vers composent au final un mot. Vous savez ce que c'est qu'une anagramme ?
Est-ce que c'est pas comme un palindrome ?
Alors, non,
c'est une phrase qu'on peut lire dans les deux sens. C'est un verbe qui peut se lire dans un sens comme dans l'autre.
Alors ça, c'est un palindrome.
Oui. Mais un anacyclique, je pense que c'est
donnez-nous un exemple d'anacyclique pour qu'on comprenne.
C'est-à-dire les lettres.
Alors ce n'est pas tout à fait la même
chose. Dans le palindrome, ce sont les sons et dans l'anacyclique, ce sont les lettres.
C'est une phrase qu'on peut lire à l'infini ?
Non. Mais vous êtes...
Alors, je dirais, j'ai pas d'exemple sous la main.
Mais donnez-en alors.
Ouais. Alors
parce que Bob, par exemple, ça, oui. C'est un.
Palindrome. C'est un palindrome.
Palindrome. C'est aussi un anacyclique. Mais tous les anacycliques ne sont pas des palindromes.
Ah, c'est au niveau du nombre.
Qui commence par la même lettre.
Non. Il faut que les lettres soient exactement les mêmes d'un côté comme de l'autre.
Non.
Est-ce que c'est le nombre de lettres ?
Non.
Qui puissent se lire dans l'autre sens.
Ah ben ça, c'est le cas d'un palindrome.
Oui. Non, comme dans un miroir, voilà.
Ah, ça, c'est différent, ça, alors.
Il faut que le palindrome...
Il faut faire attention à ce que vous dites, professeur.
Oui. Alors, par exemple, TAT, vous pouvez le lire dans un miroir. C'est un palindrome que vous pouvez lire dans un miroir.
Oh, pas tout
Bob,
à fait.
Bob, vous ne pouvez pas le lire dans un miroir.
Si, aussi.
Non, ça fait des, mais non,
non,
ça fait des lettres que vous ne connaissez
pardonnez-moi,
pas.
Pardonnez-moi, professeur.
Le B dans un miroir fait une lettre que vous
bravo.
Ne connaissez
ah,
pas.
Ah oui, je vois la différence.
Mais TAT, exactement, le E dans un miroir ne s'inverse pas.
Tate, je n'ai pas mis de E.
Non, non, moi, j'ai rien bu, mais j'ai mal à la tête.
Est-ce qu'on peut le dire en boucle ?
On est tout près. Hein.
Est-ce qu'on peut le dire en boucle ?
Il y a une différence entre un palindrome et un anacyclique.
Ça peut être un mot étranger.
Est-ce que ce ne serait pas un nom commun et le palindrome un nom propre ?
Tous les palindromes sont des anacycliques, mais... Tous les anacycliques ne sont pas des palindromes. Alors, Bob, c'est un palindrome, hein, oui. On est d'accord. Oui. Laval, c'est un palindrome.
Radar.
Alors, ce sont aussi des anacycliques.
Par exemple, le palindrome, c'est Ésope, reste, se repose. Et dans l'autre sens, est-ce que l'anacyclique ne garde pas le même sens dans un sens que dans l'autre ?
C'est ça, oui, voilà.
Excellente réponse de Philippe Gueluc. Oh là là.
Chapeau l'artiste.
Eh oui, par exemple, Léon qui fait Noël dans l'autre sens.
Ce n'est pas un anacyclique.
Ça, c'est un anacyclique.
Bravo,
belle question. Mais ce n'est pas un palindrome.
Mais
c'est
exemple,
l'inverse, vous voyez, monsieur.
D'accord.
Laurent, monsieur alors, Ésope reste ici et se repose est un anacyclique.
Oui, mais tous les... bien sûr, voilà. Tous les palindromes sont des anacycliques, mais tous les anacycliques ne sont pas des palindromes.
Et donc, un mot palindrome est forcément un anacyclique.
C'est ce que je viens de dire.
Voilà. Et la marine...
Oui, mais non. Attendez, je le redis pour moi-même.
Radar est un anacyclique.
Oui.
Et la marine... Donnez-moi un anacyclique qui n'est pas un palindrome.
Bah, par exemple...
Noël et la marine, papa, exemple, ira un anacyclique.
Par exemple, super et repu. Ça n'a pas le même sens.
Patron, la même chose, c'est pas un anacyclique, c'est une commande.
Et donc, quand vous avez un anacyclique, vous en avez forcément deux.
C'est-à-dire ?
Ben, si super est un anacyclique, repu aussi.
Absolument, vous avez raison, d'accord. Monsieur.
Donc les anacycliques vont forcément par deux.
Absolument.
Ça, vous vous êtes bien gardé de le dire.
Et ça l'énerve, François, il est énervé, là.
Par exemple, Luc et Q, vous voyez, c'est un anacyclique.
Oui, vous on peut se le taper les deux. Hein.
Ado et soda, je peux vous donner des tas d'exemples. Tracé et écart. J'ai cherché à piéger monsieur Rollin. J'ai réussi tout de même.
Bravo.
Parce que la réponse est venue de monsieur Gueluc. Bravo,
sûr.
Philippe.
Merci, Laurent.
Vous êtes dans votre 89e année, Claude.
Ouais.
C'est pour ça, moi, je lui ai dit bonne année. C'est toujours délicat avec Claude. Hein.
C'est vrai. Mais alors, ouais. j'ai un truc qui
tu
marche.
Le, tu dis bon mois. Ouais. Bon mois.
Non, c'est plus bonne semaine.
Bonne semaine. Ou bonne journée.
Oh non.
Pourvu qu'elle ne soit pas comme les départementales, limitées à 90. Et Noël, comment ça s'est passé? Parce qu'à Noël, qu'est-ce que vous offrez à vos enfants? Des déambulateurs, des...
Oh. Ah non. Alors voilà, il y a déjà avance.
Une place dans le caveau. À côté d'elle. Au-dessus ou en dessous?
Et pas besoin d'acheter le sapin, ça sent tout seul.
Ah oui. Avant, oui, t'avais raison, parce que chacun donnait à tout le monde. Et puis un beau jour, il y a des années, les enfants ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors on a dit qu'on ne donnerait plus qu'aux petits-enfants. Mais les miens de petits-enfants, ils sont devenus tellement grands que maintenant je leur donne des chèques. Je mets ça dans une enveloppe avec Joyeux Noël, tendrement à Babou.
Des chèques de combien?
Alors voilà, j'ai donné un énorme chèque à chacun l'année dernière, mais alors... Je me suis ruiné.
Mais énorme façon Christine Bravo ou énorme pour...
C'est des chèques de 1 euro.
J'ai donné 1000.
Ah oui, oh, oui.
Vache. Oh là là. Ouais, mais 1000 francs, non, mais c'est 1000 francs aussi. Hein.
Voilà, cette année, comme j'ai beaucoup moins d'argent, je ne travaille plus avec ce connard. Là, je gagnais avant. Maintenant, j'ai plus que ma petite pension. Alors, je les ai réduits.
Bon, ça s'est bien passé alors, Noël?
Alors, Noël s'est bien passé, mais alors c'est hier, enfin, c'est jour de l'an.
Aïe.
Et jour de l'an, j'invite ma meilleure copine.
Jeanne d'Arc.
Nefertiti.
Elle arrive. Et alors, moi, buf.
Déjà, elle arrive. C'est déjà...
Non, attends.
Elle est partie le 31 l'année dernière.
Elle arrive à 19h30 et à 20h30, elle me dit, écoute, je vais faire un petit saut pour voir une copine
au Père Lachaise.
Qui est en train de mourir du cancer.
Elle
est en chimiothérapie.
Oh, c'est gay, vos réveillons.
Alors, je m'en vais.
Elle sait mettre l'ambiance, ta copine.
Elle est pas loin, elle est hospitalisée, pas loin. Je vais l'embrasser, je reviens voir ma petite chérie. Elle part, elle revient pas.
Vous étiez toute seule le soir du 31?
Entre mon poste et mon buffet. Mais alors, le buffet, je vous raconte pas. La vodka, le...
Mais toute seule?
Le Havana. Bah, toute seule, j'en ai profité.
Non, pas toute seule, il y avait Patrick Sébastien à la télé.
Vous, Fabrice Éboué, votre Noël?
Oh, Noël, c'était sympa. En famille, moi.
J'ai ouais. Et jour de l'an?
Jour de l'an, j'ai rien fait. Moi, c'est une soupe et au lit au jour de l'an.
Ah oui?
Bon, c'est toujours chiant le jour de l'an à Paris, t'as pas grand chose à faire. Donc
ah, dans le temps, oui. Dans le temps, t'étais invité à 4-5. Fête de la Saint-Sylvestre.
Ouais.
Tu faisais une provision de bouteilles et tu arrivais chaque fois. Tu n'avais pas d'heure.
Ça remonte à loin.
Oui, ça monte loin. Alors, tu arrivais. Première fête avec ta bouteille. Ouais. Deuxième fête avec ta bouteille. Troisième fête. Puis tu calculais là où tu voulais embrasser le monde, tu vois. Et puis sous le gui, sous le hou, t'es embrassé.
Ouais. T'as à vivre jusqu'à 88 ans pour avoir des anecdotes de merde comme ça.
Bon, bah ça va.
Et vous, Stevie, les discothèques ont bien marché au Mans?
Oui, tout va bien. Moi, à Noël, j'étais en famille avec toutes mes tantes, Tata Fatia.
Ah bah,
ça fait du monde.
On a cuisiné, on a fait le sapin, on s'est offert plein de cadeaux, on a rigolé. Quand au jour de l'an, j'étais détruite.
Comment fait détruite?
Ah, détruite. Ah bah, c'est une superbe soirée. J'étais...
J'étais détruite, tu voulais dire.
Ah, détruite?
Oui, détruite. Oui.
Je préfère pas le saumon.
Non, mais il parle de lui au féminin.
Ah bon, c'est nouveau ça.
Elle était détruite.
Ah oui.
C'était l'expression de la soirée en fait. Tout le monde disait ça. Je suis détruite.
Il n'y avait que des PD.
Non. Absolument pas.
Vous êtes embrassé, mais... vous êtes embrassé, mais sous Guy, vous.
Mais pourquoi vous étiez détruite?
Bah la Java. Non, mais ça a été pour moi un enfer. Réveil, champagne. Coucher, champagne. On a toute la journée champagne.
Ah, c'est terrible.
Non, mais.
C'est surtout terrible de dire la Java à ton âge.
C'est ça. Moi, ma tradition d'antan, j'avais un ami très longtemps et on se retrouvait. La famille, c'était le 24. Le 25, on se retrouvait. On allait dans des endroits épatants. Et le truc, c'était de commencer à faire l'amour le matin en se réveillant. Mais ne venir qu'à minuit. très difficile à faire.
Ne venir, vous voulez dire
De jouir, de jouir.
D'accord.
Ah,
oui. Vous étiez avec Stevie, alors.
Je comprenais pas la phrase.
Moi, je veux bien faire l'amour avec toi, je mettrais bien un an à jouir, Claude, je pense.
Ah non, justement.
Ça s'est bien passé, vous, Laurent ?
Oh, merci, Bernard. Enfin, un qui s'intéresse à moi. Oh, mon gentil Bernard. Bah, écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai, comme ici, des faillots. Non, franchement, très bien. J'étais en Espagne, vous voyez, pour le 31 décembre. Alors, il y a une tradition.
Vous avez eu les deux oreilles ?
Non. Alors, ça,
la queue.
Non, je ne connaissais pas cette tradition. J'étais à Séville. On doit avaler 12 grains de raisin sur les 12 coups de minuit. C'est-à-dire que, voilà, premier coup, un grain de raisin, deuxième coup, deuxième. Hein ? Et chacun, dans la rue, ils vendent même dans les supermarchés des petites boîtes de conserve avec 12, précisément le nombre exact, 12 grains de raisin par boîte.
Au Cameroun, on fait ça avec des noix de coco, c'est plus long.
Oh bah alors. Une question pour Daniel Mison, qui habite le Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Le record de MTA est de 17 minutes et 6 secondes. Mais de quoi s'agit-il ? Record d'ailleurs établi quand même il y a déjà quelques années, le 8 août 1993. On n'a pas fait mieux depuis. Quel est ce record de MTA de 17 minutes et 6 secondes ?
C'est pas le japonais là qui a mangé son ami ? Mange ton ami ? Non.
Mange ton ami, non.
Un record sportif, c'est sportif.
Alors c'est sportif, oui.
Attendez, manger un ami en 17 minutes, c'est... Enfin, moi, Bernard, j'y arriverai pas.
Mais t'en gardes pour le lendemain. Tu demandes au Courgeot de prêter un congélo.
17 minutes.
C'est de la moto ?
De la moto, non.
C'est quelqu'un qui grimpe, une escalade ?
Non, personne ne grimpe là-dedans.
Est-ce que la première lettre nous indique la discipline ?
Oui.
Non.
C'est un Français qui a battu le record ?
Non, la première lettre, c'est maximum. Alors, voyez.
T pour température.
T, c'est pas température, mais c'est temps. Alors ça, de toute façon, je vous l'ai dit.
Maximum de temps.
17 apnée. Minutes et 6 secondes.
Ah, c'est le record du mec qui s'est mis un thermomètre ?
Non.
Maximum de temps à l'arrivée ?
Non plus. Ça, c'est Titoff qui détient le record.
Mais qui détient ce record, Laurent ?
Ah ben, je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui s'appelle John Gorski et il détient ce record depuis le mois d'août 93.
Est-ce que la troisième lettre nous donne la discipline ?
La discipline, non.
Est-ce que c'est un sport nautique ?
Nautique, non. Et je tiens à dire d'ailleurs que j'ai eu du mal à croire à l'existence de ce record parce que ça me paraissait beaucoup, 17 minutes et 6 secondes, et j'ai vérifié, c'est exact. Et
vous mangez des bigorneaux pendant 17 minutes ?
Vous, Laurent, quand vous le faites, quel est votre record ?
Moi, j'ai jamais... Oh, si, remarquez, c'est vrai que j'ai déjà essayé, mais alors là, moi, ça doit être 3-4 secondes, vous voyez. Ce n'est pas un sport forcément très, très pratiqué chez nous, même si on en voit et que tous, au moins une fois, on a essayé. J'imagine tous, vous avez essayé au moins une fois ce sport, mais ce n'est pas un sport en France qui est le sport le plus répandu.
Le badminton,
non.
Est-ce que ce sport nécessite un accessoire ?
Oui, à ça, oui.
Ça, c'est diabolo, deux. C'est par exemple un échange de badminton et c'est d'arriver à échanger pendant 17 minutes sans que le volant...
Le jokari.
C'est dangereux ?
Dangereux ? Ah, ça pourrait l'être.
Le boomerang. C'est le retour du boomerang.
Alors, expliquez.
17 minutes, c'est le temps qu'a mis le boomerang pour revenir.
Excellente réponse de Bernard Mabille.
Mais c'est énorme, dis donc. Il l'a envoyé vachement loin.
Il l'a envoyé en chronopost.
Effectivement, le MTA, c'est maximum de temps en l'air. Voilà ce que ça veut dire, MTA.
17 minutes.
Maximum
Bernard,
de temps
pas longtemps,
en l'air. Et il s'agit de réaliser le vol le plus long possible en durée sur 5 tentatives. Et le record est détenu par M. John Gorski qui a réussi à envoyer son boomerang. J'ai du mal à le croire, mais je vous jure
que
j'ai
vérifié. Mais
peut-être qu'il y avait des courants ascendants.
Qu'est-ce que vous dites ?
Il y avait un complice de l'autre côté qui l'a renvoyé 17 minutes plus tard. Le mec, il a une fracture du crâne.
Ah non, 17 minutes en l'air, le boomerang.
C'est beau, ça.
Vous y croyez, Luc ?
J'ai du mal à y croire.
Bah oui.
Il doit être très large.
C'est attesté par la International Boomerang Academy. C'est que c'est avéré.
À quelle vitesse qu'il a lancé ? Il a lancé un mec qui faisait du deltaplane. Voilà. Comme ça.
Bah, il doit être très large, il a plané. En fait, 17 minutes, ça veut dire qu'il vole pratiquement en tournant.
Ah, ça, je vous le confirme, il vole pendant 17 minutes. Ce qui revient, vous voyez.
Mais
si il commence à marcher avec des petites pattes ou avec des roues, c'est plus un record.
Non, mais en même temps, s'il n'y a pas. Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer plein d'arbitres, parce que si vous faites 17 minutes, c'est qu'il va loin le
Et pourquoi qu'il revient d'abord ?
Et donc,
à mon avis, il est tombé
quelque part,
disons à 5 minutes, 6 minutes, et là, l'arbitre, il n'était pas là pour voir, et il y a un autre gars qui l'a renvoyé. Pas forcément un complice, un gars qui passait par là.
Ah oui, il dit tiens, boomerang.
Ça se tient.
Ça se tient. Bah c'est une deuxième version. Il y a eu la version Janssen, la version Mérès. Je me tourne vers notre scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez, monsieur Verbeek?
Il y a peut-être une intervention des extraterrestres qui ont enlevé le boomerang et qui l'ont rendu au dernier moment.
Ah, ça, c'est une possibilité aussi. Mais on a tous au moins une fois dans sa vie lancé un boomerang.
Absolument.
Bernard,
alors.
Vous l'avez fait.
Absolument.
Et alors?
Son chien voilà, il n'est pas allé loin, mais j'ai mis 17 minutes pour le retrouver.
Laurent, vous savez comment on appelle un boomerang qui ne revient pas?
Non.
Un bâton. Laurent, est-ce qu'on sait si le champion le rattrape dans la main?
Ah oui, bien sûr. D'accord. Autrement, le record n'est pas homologué.
Ah, validé.
Il y a différentes épreuves, d'ailleurs, hein, dans les compétitions de boomerang. Vous avez la précision. Là, le lancer doit s'effectuer depuis le centre d'un ensemble de cercles dessinés au sol. Et les points sont inscrits en fonction de la proximité du lancer par rapport au centre. Après, vous avez des figures qu'on doit faire avec le boomerang, l'acro-doubling, l'Australian Bond. Après, vous avez la vitesse. Il faut que le boomerang revienne le plus vite possible, mais il doit faire 20 mètres tout de même.
Il y a une très belle chanson de Claude François sur le boomerang.
Ah oui ?
Ça s'en va et ça revient.
Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse, ça se danse, ça se chante comme une chanson populaire.
Pas mal.
On peut pas appeler EDF là.
Et vous savez qui a inventé le boomerang ?
Non, allez-y.
Ça, c'est un mec qui avait pas d'amis pour jouer au frisbee.
Et la question concerne quelqu'un qui fut tué par l'explosion de son bateau, le Shadow 5, à cause d'une bombe télécommandée de 23 kilos qui avait été placée près du moteur. Mais qui fut tué à cause de l'explosion de son bateau Shadow 5?
Je sais, Lord Mountbatten.
Lord Mountbatten, excellente réponse de Stevie.
C'est par l'IRA. Il a été tué par l'IRA.
Évidemment, tué par les terroristes de l'IRA. Ouais. Ils avaient placé une bombe de 23 kilos. Il avait 79 ans déjà.
Il était juste à la frontière avec l'Irlande Irlande du Nord et Irlande, d'ailleurs.
Exactement, dans la baie de Donegal. Ouais.
Et, magnifique château.
Et d'ailleurs, la bombe ne l'a pas seulement tué, lui, à 79 ans. J'allais dire, c'est grave. Enfin, j'allais dire, c'est moins grave que... Non, tout est grave, de toute façon. Oui. Mais il y a eu quand même aussi son petit-fils de 14 ans à bord qui, lui, a été tué, ainsi qu'un autre jeune garçon originaire du comté de Fermanagh, qui faisait partie de l'équipage
de
Fermanagh. Paul Maxwell, lui, il est mort à 15 ans sur ce bateau. On est compte un peu.
Il faisait partie de l'équipage à 15 ans.
Oui, il faisait partie
un
de
mousse.
Ah, ouais, un mousse, un petit mousse.
Il était pas
mais c'était une balade. C'était une balade en famille. Hein. C'était pas. Ils étaient entre eux en famille. Ils allaient faire comme certaines familles. Ils prenaient le bateau et puis ils allaient passer la journée sur le bateau à plonger dans les criques.
Les parents du petit Nicolas de 14 ans. Qui donc lui était le petit-fils de Lord Mountbatten, donc les enfants de Lord Mountbatten, c'est-à-dire sa mère, Lady Patricia, la fille aînée de Lord Mountbatten, le père de l'enfant, John Knartbull, ainsi que le frère jumeau. Il y a deux frères jumeaux qui sont morts sur ce bateau.
Tout le monde est mort sur le bateau.
Ils ont été grièvement blessés. Et la grand-mère paternelle, Lady Brabourne...
T'en es sortie.
Non, 83 ans, elle est morte que le lendemain, elle.
C'est coriace, c'est vieux.
C'est des bombes à retardement.
Une bombe de 27 kilos, faut le faire quand même. Oui,
23 kilos, tu as dit tout
à l'heure. Oui, ça va.
Oui, bah, faut pas se foutre de notre gueule non plus.
Bravo en tout cas, vous connaissez tout de la famille royale.
Non, absolument pas tout.
Incroyable.
Un petit peu quoi, je brode.
Bonne réponse de Stevie, ça fout la pression en tout cas.
Vous avez trouvé des très belles réponses ici quand même.
Ça met la barre très haut.
Est-ce que tu as la petite statuette de la reine qui fait comme ça avec sa main?
C'est Guy Carly qui me l'avait offerte.
Et vous l'avez mise où la reine avec qui salue de la main?
Dans ma forêt d'orchidées.
Attendez, ça va intéresser monsieur Semoun, ça?
Ah oui, non, là, moi, je refuse qu'on se moque de toi là-dessus.
Vous avez une forêt d'orchidées.
Ah oui. Ah, j'adore ça.
J'adore
les orchidées.
J'arrive pas à les tenir, moi.
Non, mais j'avais donné mon bon conseil ici, d'ailleurs.
Allez-y.
C'est les orchidées adorent l'eau. Ça aime baigner dans l'eau.
On croit pas ça.
Mais pas oui, toujours, tout le monde dit toujours. Faut pas, mais absolument pas. Moi, les miennes, elles sont, elles arrêtent pas de pousser. J'ai des fleurs à ne plus savoir quoi en faire.
Ah bon,
j'en ai même trop pour faire des compositions florales.
Il mais
faut,
les confitures.
Il faut beaucoup de lumière, pas de lumière directe, mais beaucoup de lumière et de l'eau, de l'eau, de l'eau.
Voilà. Bah tiens, justement, j'ai une question pour vous, monsieur Boulay, monsieur Semoun. Ouais. Ellie et Stevie, hein, bah, c'est un nouveau duo. Et...
Oh la vache.
Oh, t'as connu pire. Hein.
Qui a dit, écoutez, l'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est quand on peut en vivre.
Ça, c'est Coluche, non?
Ah, Coluche, non.
C'est Brassens,
pas un humoriste.
C'est Brassens,
ce n'est pas un humoriste.
C'est plus vieux que ça.
C'est un chanteur.
C'est vieux. Hein.
C'est très vieux.
Un chanteur, non.
Non,
c'est très vieux. C'est français, en tout cas.
Il y a eu des chanteurs faire des citations de ce genre.
Ah oui, Léo Ferré. Léo Ferré.
Il aurait pu faire une citation.
Kenji aussi, mais Dalida. Dalida.
Non, c'est un homme politique.
Non, je dis une femme pour faire une parité de réponse.
Moi, c'est je pense un homme. Que c'est un écrivain.
C'est un écrivain.
Un, écrivain, oui. Un poète.
Il nous a quitté.
Prévert.
Boris Vian.
Boris Vian.
C'est début français. Du 20e siècle ou un truc comme
alors,
ça.
Alors, effectivement, on est plutôt à la fin du 19e.
C'est français.
Début du 20e et c'est français.
Apollinaire.
Maurice Carême.
Alfred Capu.
Alfred Capu, non.
Non.
L'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est quand on peut en vivre.
David Guetta.
Ça pourrait être du Courteline, non?
Courteline, non.
Il est français?
Ah oui, plus français que ça, tu
vois. Maurice, Anatole France.
Anatole France, non.
Clémenceau. Ben non, il n'était pas écrivain.
Non.
Écrivain, essayiste.
Il a fait un peu de politique quand
Tristan
même.
Tristan Bernard.
Ah oui, militant socialiste.
Paul Claudel.
Ah, oh, les premières citations.
Oui, je vois qui c'est. Oui, oui, il a écrit un beau livre sur
et la... puis ouais. Ensuite, il s'est rapproché du catholicisme, du nationalisme.
Ah oui.
Ah. Il a été académicien?
Non.
Et qui a fait l'Académie des Neuves?
Qu'est-ce qui en parle actuellement?
Non, moi, je veux participer à l'émission parallèle de Chantal Latsou. Ouais. C'est possible.
Qu'est-ce qui en parle actuellement? Qu'est-ce qui dit?
Bah, pas vous, en tout cas, voyez.
Non, mais d'accord, mais je suis pas politique. Mais qu'est-ce qui
inspiré qui?
Jaurès.
Il s'appelait Charles.
Oui, exactement.
Peggy. Maurice,
Charles Péguy. Ah, bonne réponse, d'Olivier de Kersauzon. Heureusement qu'il est là, Olivier. Hein.
Ouais.
Une autre citation.
Ouais, sûr,
une citation pour Vincent Lizot, qui habite Ile dans la Haute-Vienne, qui a dit « Le yacht est le plus coûteux des vomitifs ».
C'est pas de très bon goût.
C'est un humoriste.
C'est un humoriste de deuxième catégorie.
Oh non, c'était un grand comédien, metteur en scène, écrivain.
Tu parles.
Ustinov.
Peter Ustinov. Bonne réponse de Bernard Mabir. Bon, on va compliquer les choses avec cette citation pour Jérôme Neufnet, qui habite Soigny, c'est en Belgique, qui a dit « Tout est plus simple qu'on ne peut l'imaginer et en même temps plus enchevêtré qu'on ne saurait le concevoir.
Oh, »
On dirait du Einstein.
On laisse deux heures à Chantal.
Ouais, Chantal, répétez la phrase que je viens de dire.
Tout est plus simple qu'on ne saurait le dire, mais tout est plus difficile qu'on ne saurait le concevoir.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
J'ai rien compris de ce que je viens de dire.
C'était un Français qui a dit ça?
Alors, écoutez, non, ce n'est pas un Français.
C'est un Belge.
Un Américain.
Un Américain non plus.
Anglais.
Tout est plus simple qu'on ne peut l'imaginer et en même temps plus enchevêtré qu'on ne saurait le concevoir.
C'est un philosophe. Moi, je pense que ça a été prononcé en anglais.
En anglais, non.
Alors, en russe.
Pablo Neruda.
Quoi donc?
Pablo Neruda.
Pablo Neruda, non.
Non.
C'est du russe.
Ce n'est pas du russe.
C'est de l'espagnol.
C'est européen, c'est européen?
Ah oui, c'est européen.
C'est irlandais.
De l'italien,
irlandais.
Allemand.
Et c'est Goethe.
Et c'est Goethe. Bonne réponse.
Toujours Goethe quand c'est allemand.
Bah oui, c'est toujours Goethe.
Oui.
Je voulais une citation un peu plus difficile encore.
Il y a du niveau.
Facile, personnellement.
Une autre citation pour Jean-Philippe Van Kraen, qui habite Bruxelles, qui a dit... Qu'est-ce qu'il y a, oui? Pourquoi vous me dites oui?
Bruxelles, oui.
Chantal valide ce qu'on dit, en fait.
C'est tout ce que vous allez faire pendant l'émission, oui. Ponctuer ce que je dis.
Mais oui, c'est intéressant, parce que sinon vous êtes seul un peu.
Elle est folle. Elle est définitivement folle.
Elle nous a pas précisé que c'était pas loin du nord, là où elle est née. Hein.
Alors, Jean-Philippe Van Kraen, qui habite...
Un petit peu plus loin, quand même. Allez-y.
Il habite...
En plus, elle dirige les opérations.
En plus, ouais.
Il habite Bruxelles, en Belgique. Oui. Qui a dit... Commence déjà par être l'ami de toi-même, tu ne seras jamais seul.
Ah, ça c'est joli, je savais qui c'était, mais je ne me souviens plus. Attendez, j'adore ce genre de citation.
On dirait du Confucius.
On dirait du Sacha Guitry.
Ça pourrait être du Montaigne.
Alors, c'est pas si loin, mais ça n'est pas Confucius.
Là-haut de ce.
Non, mais c'est pas chinois.
Ah, c'est pas chinois.
C'est
ancien.
C'est ancien.
Ah oui, c'est Épictète.
Euripide,
Pascal.
Socrate.
Sénèque.
Sénèque. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Sénèque. le 24 février 1965. Que s'est-il passé au cinéma-théâtre du Ponthieu à Abbeville, dont on parle encore aujourd'hui?
C'est la sortie d'un film?
Sortie d'un film, non.
Cinémascope, premier cinémascope?
Ah non, pas du tout, non. 65.
Ah bah. Tournage d'un film?
C'est pas du cinéma.
C'est pas du cinéma, non, c'est cinéma théâtre.
C'est de la politique.
Du Ponthieu. C'est pas de la politique.
Un fait divers?
Un fait divers, alors, le mot serait un peu fort, mais il est arrivé quelque chose à quelqu'un qui d'ailleurs n'a jamais remis les pieds à Abbeville depuis.
Qui est tombé du balcon?
Tombé du balcon.
Du cinéma,
Non, mais on se rapproche.
Ah, ah oui, c'est un acteur à qui il est arrivé quelque chose, un acteur de théâtre?
Pas un acteur.
Ah bon, réalisateur?
Un réalisateur, non.
C'est un gros qui n'a pas pu s'asseoir dans le fauteuil.
Ah ben c'est une histoire vraie, ça.
Ah oui, oui.
Un spectateur?
Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme, hein, mais quand même 4 côtes cassées et 5 semaines d'immobilisation.
Il a pris un projecteur sur la gueule?
Non, non.
Il a pris l'écran sur la gueule?
Non, non. Il était en répétition, il n'y avait pas de public.
Ah, c'est un comédien alors?
Alors, c'est pas un comédien.
C'est un comique?
Un comique, non.
Un metteur en scène?
On est en.
Un chanteur?
Un chanteur.
Maurice Chevalier?
Non, on est le 24 février 1965 et il y a un chanteur qui répète. Il faut trouver qui et qu'est-ce qui lui arrive?
C'est Johnny?
Johnny, non.
Il vit toujours?
Il est vivant?
Il ne vit plus.
Il est mort il y a longtemps?
Charles Aznavour?
Charles Aznavour.
Claude François. Claude François.
Oui, ah, voilà, je vais le dire.
On l'avait installé dans une baignoire.
Ah, c'était une question pour moi, en plus.
Excuse-moi, c'est pas lui.
Ça concerne Claude François, mais attendez, vous n'avez pas encore trouvé ce qui lui est arrivé.
Eh ben, il a sauté, parce que...
Il a sauté dans le vide, il a fait une chaîne, mais il a sauté dans le public, il s'est écarté, non?
Non, je vous dis, c'était des répétitions, il n'y avait pas de public.
Une Claudette qui lui est tombée dessus?
Non.
Il y avait un attentat, une bombe agricole?
Une bombe agricole.
Bah, non, non. Peut-être quelqu'un lui en voulait, peut-être des gens lui en voulaient. Ou des gens...
C'est comme ça qu'on surnomme Karine Le Marchand, une bombe agricole.
Claude François, il sautait de la batterie. Un moment.
Ouais,
et il est tombé de traviole, il s'est fait.
Non, la batterie,
il s'est pété un talon, non?
Mais il a sauté du tabouret de la batterie.
Où est-ce qu'il est tombé?
Il a été agressé par des femmes.
Dans la fosse.
Dans les coulisses.
Dans le trou du souffleur.
Dans le trou du souffleur. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Tu m'as volé.
Ça, c'est un truc qui n'aurait pas pu m'arriver.
Et oui, tu serais pas passé.
Ah bah non. Mais toi non plus.
À l'époque, si.
Le trou du souffleur. Il est tombé dans le trou du souffleur.
Oh, c'est drôle.
On m'a raconté un truc sur les souffleurs. À la Comédie Française, il y avait une souffleuse qui, quand le comédien se trompait, elle faisait « C'est pas ça. » Catherine Egel qui m'a raconté ça.
C'est génial.
Il y en avait un, paraît-il, il y a plein d'anecdotes sur les souffleurs. Il y en avait un à Saint-Étienne, au théâtre de Saint-Étienne. Il paraît que c'était le souffleur le plus drôle de toute la France. Et effectivement, quand il y avait quelqu'un qui avait un trou de mémoire, le comédien, il en se tournait. Aujourd'hui, il n'y en a plus, hein, de souffleur, mais il faisait signe au type. Parce que c'est vrai que c'est long, hein, quand t'es souffleur. Parfois, il n'y a pas de trou de mémoire, donc tu fais rien pendant une heure et demie. Et t'es là, tu tournes les pages à suivre la pièce. Et puis là, ce jour-là, enfin, il y a un type qui a un trou de mémoire, un comédien. Et le comédien fait signe au souffleur. Et le gars lui répond: t'as qu'à apprendre ton texte.
Ah, c'est drôle.
C'est bon. Et toujours Catherine Yégel me racontait qu'un jour elle jouait et il y a un grand acteur, elle ne veut pas me dire le nom, qui a un grand monologue et tout d'un coup il a un trou dans le monologue et les comédiens peuvent rien faire parce qu'ils sont des paysans qui doivent écouter. Et tout d'un coup, dans le monologue, il s'arrête et il fait « J'ai encore plein de choses à vous dire, je reviens.
» Moi, quand j'ai joué la femme du boulanger, on avait une souffleuse.
Avec Michel Galabru.
Ouais. Enfin, c'était plus pour Michel que pour moi, parce que j'avais très peu de texte, moi. Mais
vous étiez plutôt dans l'évocation sexy, on va dire.
J'étais dans... Voilà.
Il y avait un boxeur qui jouait avec vous, en plus.
Absolument.
Stéphane Ferrara.
Et Claude Brasseur m'avait raconté que son père, le grand Pierre Brasseur, comédien de théâtre très connu, buvait beaucoup. Bon, ça, c'est de notoriété publique. Et il joue une pièce, il joue le premier acte, et à l'entracte, il va au bistrot du coin pour boire encore plus. Il revient ivre mort après l'entracte et il recommence le premier acte. devant les autres comédiens qui sont un peu embêtés. Voilà.
Et vous, avec Galabru, alors, Valérie?
Ah ben, donc, on avait... Il y avait encore le trou de la souffleuse, puisque c'était une souffleuse, et ça le rassurait, parce qu'en fait, il n'a jamais eu de trou. Mais ça le rassurait qu'elle soit dans le trou.
train-là. Ah. Et moi, j'étais au-dessus.
C'est une belle anecdote. Que... Vous avez bien fait de l'interrompre, Pierre.
Il y en a une dans le même genre de Pierre avec le groupe de rock Aerosmith qui, à l'époque, on surnommait les Toxic Twins, le guitariste et le chanteur. Ils étaient tout le temps défoncés. Un jour, ils arrivent en concert, ils rentrent sur scène, ils disent « Bonsoir Dallas !» et ils repartent. Ils pensaient que c'était fini, en fait.
Ah oui.
Oh la vache.
Bah, c'était pas mieux que moi.
Ce capitaine a accepté de devenir américain pour 2,6 milliards d'euros. De qui s'agit-il ?
Capitaine Fracasse ?
Non.
C'est une entreprise. C'est une entreprise qui a été rachetée.
Oui.
Ah, Captain Igloo.
Captain Igloo, ah. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Ah oui, ah, dès que c'est de la bouffe. Hein.
On dit pas igloo, hein, on dit igloo, capitaine igloo.
Il y a qu'un seul
ah, ah oui, oui. Oh,
ouais, moi, je trouve ça et plus c'est français, igloo.
Capitaine igloo, c'est la fameuse marque de poisson pané, fabriquée au départ par une société belge, la société igloo. Bon, c'était européen, en fait, hein, pour tout vous dire, parce que je vais vous passer les détails des différents rachats. L'actuel propriétaire, c'était un fonds d'investissement britannique. Ce fonds d'investissement a annoncé qu'il cédait capitaine igloo à la firme américaine Nomad pour 2,6 milliards d'euros. Tout le monde a adoré les
pubs. C'était très bon.
On s'en fout. Tant qu'ils nous laissent Croustibat.
C'est quoi Croustibat?
Ah, Croustibat, c'est le concurrent de Captain Igloo.
Ah ouais?
Ah, moi, je suis
Igloo,
plus...
pas Igloo.
Igloo, je suis plus Croustibat.
Ah, mais oui, qui mange du poisson pané?
Je n'ai jamais goûté, en tout cas.
À la cantine.
Mais c'est un truc de jamais été à la cantine.
Oui, mais c'est un truc de pauvre, ça.
Enfin, moi, j'ai mangé ça toute mon enfance.
Bah, évidemment.
Le fameux Free Honor. Moi, à l'époque, la marque, c'était Free Honor.
C'est bien pratique pour les feignasses, c'est vrai.
Ah oui.
Alors, le capitaine Igloo, c'était donc la mascotte de la marque, un vieux capitaine de la marine au cœur d'heure qui passait son temps à pêcher du poisson pour le seul plaisir des enfants. C'était ça dans la pub, évidemment.
Bien sûr, il le pêchait pané en plus, c'est là où il était fort.
Non mais c'est vieux, il a débarqué sur les écrans en 1967, capitaine Igloo.
Ah bon, c'est pas tellement vieux, je veux dire. Le petit Lu, c'est débarqué en 1930.
Quand même, 67. Le bon colin de Capitaine Igloo pour les enfants, pour les plus grands et les plus costauds. C'était ça au début le slogan, vous voyez.
Ah, ouais.
Et au début des années 2000, il y a eu un nouveau Capitaine Igloo. Ils ont tenté de relancer, on va dire, la mascotte de la marque. Et ils ont même mis un capitaine plus jeune. Mais alors, ça n'a pas marché du tout.
C'est pour ça qu'ils ont vendu que 2 milliards d'euros.
Et ils ont rappelé le vieux capitaine, qui est un acteur allemand, qui s'appelle Gert Deutschmann. Et
il s'est fait refaire le visage, il me semble.
c'est quand même génial l'histoire de Capitaine Igloo.
C'est formidable, ouais. Puis en plus, ils ont fait une belle chanson avec lui.
Ah oui ?
Il est des nôtres, il a vu son coup comme les autres. Igloo.
Ah oui. Celui qui, à part moi, vous engagera à la radio, il est pas né aussi. Hein. En tout cas, le journal Le Monde titrait, et c'est un titre évidemment totalement paradoxal, le marché des surgelés est en pleine ébullition, ce qui évidemment
C'est un oxymore.
Exactement, un oxymore. Le marché des surgelés en pleine ébullition, la vente de Captain Igloo pour 2,6 milliards d'euros s'inscrit, nous dit le journal Le Monde, dans la recomposition d'un marché atomisé. Je savais pas que ça marchait plus les surgelés, moi.
Ah non, ça marche plus. Ah non. J'étais avec Picard l'autre jour, j'ai prêté 10 sacs, il est plus là.
Mais c'est Madame Courgeot qui a foutu le business en l'air. Hein.
Non.
Ah bah oui.
Non, mais enfin, c'est peut-être au moment où il y avait du cheval dans les lasagnes, c'est peut-être depuis ça.
Parce que si t'as du cheval dans les lasagnes, je vois pas ce qui t'empêche d'acheter du poisson pané.
Tu développes une suspicion.
Vous avez déjà goûté des
hippocampes. Il y avait des hippocampes.
Avant de réattaquer, on pourrait peut-être prendre une petite histoire, monsieur Bigard.
Oui, c'est le mec qui revient d'Amsterdam. Enfin, il va à Amsterdam et évidemment il va à la spécialité Amsterdam. Ariel, elle le sait, hein, l'a fait pendant des années.
Les tulipes.
C'est les vitrines.
Oui. Mais il faut dire que c'est assez joli.
Et c'est des filles sublimes dans des vitrines avec des maillots fluo. Moi, j'y suis allé voir par moi-même aussi. Et donc le gars, il se retrouve là-bas et il cogne à la vitre. Tin, tin, tin. Il dit c'est combien? La fille, elle dit c'est 200 euros. Il dit c'est cher. La fille, elle dit oui, mais c'est du double vitrage.
Ah oui.
Alors, c'est Ariel Dombal qui est au restaurant. Et le garçon, il dit je vous recommande chaudement la langue de bœuf. Et Ariel, elle dit ah, langue de bœuf. quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf.
J'ai une question, j'enchaîne, pour monsieur Lavial, qui habite Marsas, c'est en Gironde. Et ça tombe bien, la question concerne madame de Pompadour, la marquise.
Le bidet, madame de Pompadour, bidet, non ?
Alors c'est vrai que oui, qu'elle était habituée au bidet, mais madame de Pompadour, on lui doit aussi une chanson. Quelle célèbre chanson, pour les paroles, on lui doit les paroles, doit-on à madame de Pompadour ?
Le devin du village.
Qu'est-ce que c'est que ça, le devin du village ? Ah
bah. Eh bien, c'est une sorte de bergeronnette.
Oui. Hein, je crois qu'elle nous raconte encore n'importe quoi.
Non, mais si tu pouvais me la fredonner, ça me reviendrait peut-être.
Elle l'avait écrite pour la Martine.
S'il est dans ce village un berger sensible et charmant. Ça commence comme ça.
C'est marrant, on dirait Mylène Farmer, mais heureuse.
Vous êtes sûr que c'est...
Le devin du village.
Vous êtes sûr que c'est Madame de Pompadour, ça.
Et vous savez qui a écrit ça?
Eh ben, Madame de Pompadour.
Madame de Pompadour. Et de qui est la musique?
Lully.
Non.
Bach.
Non.
Kléderman.
Non. De Jean-Jacques Rousseau.
Oh, dis donc.
On va vérifier quand même.
On va quand même vérifier.
Mais attendez, je vous dis simplement quelque chose. C'est pas Madame de Pompadour, c'est Marie-Antoinette.
Mais c'est Bénichou.
Juste un détail, quoi.
Voilà, c'est Bénichou avec une perruque.
C'est pas la Martine, c'est Gérard. Et là, c'est pas Madame de Pompadour.
Bon, alors, je vous demande plutôt la chanson que Madame de Pompadour a vraiment, vraiment écrite. Écrite, enfin bon, elle a inventé le
quand je pense à Fernande.
Non, elle a inventé le refrain.
Une souris verte.
La musique existait déjà et elle a trouvé les paroles. Bon, c'était une chanson, évidemment, qui a été reprise depuis par tout le monde.
Il est beau mon lavabo.
Elle avait écrit ça pour les enfants du village voisin. Elle a créé ça
un kilomètre à pied, deux kilomètres à pied.
Non. Elle
la digue du cul.
Elle a créé cette chanson à Noël 1753.
Mon beau sapin.
Madame de Pompadour.
Mon beau sapin.
Non.
Au clair de la lune.
Non. Chanson que tout le monde connaît, une comptine pour enfants.
Oui, un petit papa.
Pinocchio, Madame Bertrand. Vous avez des filles.
C'est une chanson sur Noël.
Non, pas une chanson sur Noël. Ah. Elle avait écrit la chanson pour Noël.
Un petit navire.
Non. Alors, en fait, c'était pas vraiment pour les enfants au départ. C'est devenu depuis une chanson que les enfants chantent. Mais au départ, c'était plutôt pour parler d'une interdiction de certaines maisons de prostitution sous le règne de Louis XIV.
Ah, c'est le Guy,
au clair de la lune.
Au clair de la lune, non.
C'est un rapport avec le Guy.
Pas le Guy, mais les lauriers, oui, c'est
les
vrai.
Lauriers, hein. Allons voir si les lauriers sont coupés.
Alors oui, et c'est donc...
C'est ça. Bah, c'est, je sais pas.
Ah, allons voir. Voilà.
C'est très russe. C'est très...
Et comment s'appelle la chanson? Comment s'appelle la chanson?
Embrasser qui vous voudrez.
Non.
Allons voir. Les lauriers sont coupés.
Pardon.
Nous n'irons plus au bois.
Nous n'irons plus au bois. Bonne réponse de Jean-Louis Chifflet. Nous n'irons plus au bois. Et oui, voilà le titre de la chanson. Nous n'irons plus au bois.
Les lauriers sont coupés. La belle queue, voilà, ira les ramasser. Entrez dans la danse. Voyez comme on danse.
Sautez, dansez.
Embrassez qui vous voudrez.
Je ne suis jamais sorti avec les maisons de
si, sautez.
Non, alors je vais vous dire le rapport. C'est que ça parlait de l'interdiction des maisons de prostitution pendant le règne de Louis XIV. Parce qu'en effet, les maisons de passe arboraient une branche de laurier au-dessus de la porte, ce qui explique le titre de la chanson « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ». En gros, ça veut dire « Nous n'irons plus aux putes », ce que ça veut dire.
Exactement.
C'est sympa pour les petits-enfants qui chantent ça maintenant.
Quel genre d'enfant chante la défense des maisons closes, c'est ça?
Nous n'irons plus au bois, aujourd'hui, remarquez, ça marche encore. Hein.
Oui.
Nous n'irons plus au bois, les Brésiliens sont arrivés.
Oui,
les Brésiliens ne sont pas coupés, quand même.
Et ils sont pas coupés, mais tu remarqueras que c'est quand même bien rangé. Hein.
Elle est très belle aujourd'hui.
Ah oui,
on dirait l'eau. Vu. Non mais elle s'est recoiffée, on dirait Love Amour. C'est magnifique.
Non, mais on voit son nez au moins maintenant.
Elle m'a dit, je me suis fait la coiffure d'une danseuse du Crazy Horse Saloon.
Mais c'est ça, c'est Love Amour.
Hein, le haut c'est le Crazy Horse, le bas c'est Madame Arthur.
Et l'ensemble fait très chez Michou quand même.
Ah non, mais c'est vrai que je ne l'ai pas reconnu ce matin quand je suis arrivé à RTL.
Enfin, Laurent, elle est magnifique.
Merci, Fabrice. Enfin. Et j'ai fait ça pour sécher plus vite.
Alors. Comment ça pour sécher plus vite?
Quand je vais sortir de l'eau.
Comment ça, quand vous allez sortir de l'eau?
Enfin, puisque je pars à Hawaï. Oui. Tu sèches plus vite quand t'as les cheveux plus
courts. Mais c'est vrai que vous avez un côté beau, Derek. Je parle de l'humoriste.
Jean-François, c'est ça.
C'est pas qu'elle est pas belle, Karine.
C'est qu'elle est propre.
Moi, Fabrice, beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Elle est très jolie. C'est qu'on n'a pas l'habitude de la voir maquillée.
Mais ça lui va très bien, moi, je trouve.
Avec voilà. Les ongles.
Tu es très, très jolie. Tu es voilà. Très, très jolie.
Voilà, merci.
Bon. C'est baisable.
Baigne-toi. Non, j'irai pas jusque-là, mais...
Oh, mais pourquoi j'ai accepté de revenir aujourd'hui?
Baigne-toi à Hawaï, il y a des requins, donc on va être pénible.
Fabrice, vous la connaissiez, Christine Bravo?
Je l'avais déjà croisée, bien entendu, et je trouve qu'elle est parfaite, elle est très bien, elle est en forme.
Oui, ah oui.
Vous acharnez sur elle, ouais, ce n'est pas beau.
Moi, non. Je trouve que c'est de la misogynie, parce que Bernard, si on vous attaquait sur le physique, franchement...
Oh, bah allez-y, Karine.
Non, je ne le fais pas, parce que je trouve ça trop facile.
Il en
facile.
Rêve que vous attaquiez sur le physique.
Ça, je trouve ça trop facile.
Merci. Je rêve que vous commenciez par là.
Qu'est-ce que tu lui reproches à Bernard? Il est très beau.
Bah vas-y.
Oh la
vache. Toi, t'es une amie. Karine, tu es une amie.
Bah, toi,
vraiment, autant je t'aimais pas.
Non, mais Karine, qui est habituée de la ferme, là, je te dépayse pas quand même.
Je dois dire que Fabrice, qui pourtant a une femme déjà très très jolie,
ah oui,
très
belle.
Est impressionné par la présence de Karine Le Marchand à ses côtés.
Ah ouais, très belle.
Vous n'aviez jamais regardé L'amour est dans le pré?
Ah non.
Vous ne connaissez pas?
Non.
Ça passe pas en Suisse.
Non, mais moi je suis pas une référence dans ce domaine. Vous
expliquez-lui, Karine, ce que vous faites à la télévision.
Je tente de rencontrer, de mettre en relation des célibataires. Agriculteur avec des hommes ou des femmes.
Ah oui, mais je connais le principe de l'émission. Oui, je connais le principe.
C'est elle qui anime.
Ah, elle est charmante.
mais pourquoi vous ne l'avez pas reconnue?
Mais parce pas, que à mon avis,
je
pas.
Suis un téléspectateur atypique. Je regarde essentiellement le foot, le rugby, le tennis, les films et les séries. Quand j'ai fait tout ça, évidemment, il ne me reste plus beaucoup de temps.
Eh oui, eh oui.
Bah, y a Karine quand on a fait tout ça.
Ah, mais oui, mais ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais, je vais la regarder.
Ah oui, voilà. Oui.
C'est marrant d'entendre Fabrice. J'ai l'impression d'être à la radio.
Oui, c'est vrai.
Mais vous y êtes.
Mais on y est.
Et en plus, elle est con. Alors... Une citation pour Cyril Millerot qui habite Saint-Lifard, c'est en Loire-Atlantique.
Oh, c'est charmant, oui.
Ah, vous connaissez?
Oh, c'est ravissant.
Ah oui, Saint-Lifard. Ah,
Saint-Lifard, oui, il y a une grande rue, il y a une église, et puis il y a la mairie, il y a quelques arbres, c'est superbe.
Ah oui, oui, oui. La salle des fêtes de Saint-Lifard.
Oh, ben, mon cher ami, on y a passé des soirées extraordinaires.
Ah oui. Ah,
les soirs de Saint-Lifard, le carnaval.
Le carnaval.
Le carnaval. Les femmes qui dansent quasiment nues dans les rues.
Ah, oui, oui.
Une ambiance.
Les Saint-Lifarnaises, comme on les appelle.
Ah, on les appelle comme ça.
Il y avait un gars qui s'appelait Serge Lifard, vous vous souvenez?
Oui, ça n'a aucun rapport.
Danseur, oui. Bah, sauf qu'il dansait, il dansait quand même.
Voilà.
Il dansait plutôt bien. Mais c'est un des rares personnages que nous avons connus qui s'est battu en duel.
Mais qui?
Le danseur étoile,
c'est qui? Ah, c'est un danseur étoile, d'accord. On est paumé, nous, avec Karine.
C'était un très, très grand danseur et chorégraphe qui s'est battu en duel. Ça doit être un des derniers en France, j'imagine. Avec le marquis de Cuevas, si ma mémoire ne me trompe pas.
À l'épée.
Non, avec sa bite.
Ah oui, à l'épée. Oui. Ils sont pas battus à coups de tomate. Oui, c'était à l'épée. Oui.
La citation pour monsieur Cyril Millerot de Saint-Lifard. Tu peux la poser, ma question?
Oh non, c'est pas obligé.
Ça se trouve qu'il attend en plus.
Quoi?
Non, mais j'en reviens pas de parler à Fabrice.
Ça demande comment je peux encore remuer.
Ça va durer 2 heures en plus. Hein.
Mais pourquoi? Il vous impressionne, Fabrice?
Mais non, mais c'est la voix de mon enfant, de ma jeunesse.
Oh, n'exagère pas ton enfance quand même.
La semaine prochaine, Laurent invite Guy Lux.
Ah non, mais Fabrice, c'est mon idole. Je le redis,
mais oui.
Je le redis devant lui.
Mais il est extraordinaire.
C'est l'animateur radio qui m'a donné envie de faire de la radio.
J'en
c'est
suis très fier.
Mon
Laurent.
Animateur radio préféré. J'ai
et
écouté
bien
toutes ses émissions pendant des années sur RTL. C'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est
j'en suis très fier.
Le seul et l'unique avant tous les autres.
Et ouais. Je suis fier du résultat parce que le résultat est plutôt bon. Alors.
Ah ouais, franchement, vous m'avez tellement fait marrer. Alors, je dois dire. Pourriez venir et rien faire, je serais content.
Oh, bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse ça.
Même à la limite, je vous envoie le chèque et vous venez pas.
Voilà.
Qu'à bord des avions, monsieur Janssen, vous disiez bonne année en toutes les langues.
Ah oui, en toutes les langues que je connaissais. Oui, j'ai bien travaillé la langue étrangère.
Par exemple.
À pignouillir.
Ah, oui. C'est quoi encore? Oh.
Je sais pas comment on dit en italien. Comment
oh, je pense à vous d'ailleurs parce que j'ai pris l'avion là pendant les vacances.
Ah oui,
je suis
parti.
Oui, je suis parti et je suis tombé sur un steward un petit peu lourdingue, il faut le dire.
Il y en a
un steward ou une hôtesse à couillettes?
Qu'est-ce que vous appelez une hôtesse à couillettes?
Un steward qui est un peu une hôtesse.
La plupart d'ailleurs, non, c'est pas vrai. Les stewards étaient très sympathiques. C'est oui. Le chef de cabine qui était. Enfin, c'est pas qu'il était pas sympathique.
Il était trop.
Il en faisait. Je me suis dit, mais alors au fond, peut-être que Jean-Phi, qu'on adore évidemment maintenant qu'il est devenu humoriste, peut-être que quand il était steward, ben il était casse-couille.
Oh non.
Oui, si
oh
ça
non.
Se trouve.
Ah non, il a jamais été casse-couille.
J'étais pas casse-couille, j'étais suce-boule. C'est pas mal.
Non mais ouais,
moi je pense pas.
Je respectais les gens et puis j'ai jamais voulu être chef de cabine parce que justement je voulais pas tout le chichi tralala pompon là. Hein. Moi j'étais authentique moi-même et quand j'avais des gens et qui voulaient la tranquillité, je respectais cette tranquillité et cette dignité. Voilà, je n'allais
bien
pas
sûr.
Embêter les gens à dire non pas quand même.
Ah bah il m'a pas dit
si quand même.
En même temps, t'arrêtes pas de sortir.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Est-ce que vous voulez un mouchoir perruquier? Est-ce que vous voulez une coupe de champagne perruquier?
Est-ce qu'il vous a surclassé déjà?
Par exemple, je vais aux toilettes, je sors des toilettes, il avait déjà préparé un café et
moi, je pense qu'il voulait rentrer dans les toilettes avec
disant,
vous.
Je suis sûr que vous vouliez un café. Bah non.
Ah oui, ça. Alors,
oh là là.
Ah, mais si,
en même temps, vous auriez pu le prendre le
café. Et vous avez répondu quoi pour la pipe, du coup?
Ah ben, il l'a fait.
Et après, il me dit alors, il y a ma femme, son frère est acteur, vous le connaissez bien. Quand je suis à bon, très bien.
Stéphane Plater.
Il s'appelle comment? Il me dit un nom. Et il me dit, et là, c'est le drame, Michel Bernier, vous allez comprendre. Il me dit, et là, vous aussi, Laurent Baffy, vous allez comprendre, ça pourrait vous arriver. Il m'a dit, il a joué dans une de vos pièces. Et là, c'est emmerdant, vous savez quoi? Évidemment.
Et là, ça me rassure de ne pas encore avoir joué dans une de vos pièces.
Et là, c'est très embêtant quand on vous dit le nom d'un acteur.
Ah bah oui.
Vous voyez, c'était pas Francis Huster, vous imaginez bien, j'aurais retenu.
Non, mais Laurent, ça arrive souvent parce qu'il y a beaucoup de petites compagnies théâtrales qui s'emparent de nos pièces et qui les
reprennent
partout en
province. Alors, moi, c'était pas tout à fait ça. Il me dit, il a joué deux fois votre pièce en tournée à la place de François Berland, qui jouait dans la droite à gauche. Je connais bien François Berland, qui lui jouait le docteur, évidemment. Il a joué quasi, mais 98,98% des représentations, sauf manifestement
deux
fois. Et ça tombe sur moi.
Ah bah ouais.
J'ai pas su, c'était en tournée. Alors après, il me dit, est-ce qu'on peut faire un selfie? Oh, je dis, oh merde.
Non,
il n'y en a pas assez qu'à la sortie de RTL, dans les avions aussi.
Mais ça déjà, c'est une erreur. Ça, c'est une...
Ah oui,
c'est une erreur, je suis d'accord.
On n'a pas à faire ça.
Déjà, tout le monde le fait.
On tient notre place au travail et on n'a pas à importuner les gens en leur demandant des photos ni des autographes. On a la chance et le privilège d'avoir le contact avec eux à ce moment-là du vol. C'est pas pour en plus respecter leur...
Comme on dit pas, messieurs, Laurent Baffie est sur des toilettes, il a un café. Il était un petit peu constipé depuis 2-3 jours, mais là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux.
Croyez pas si bien dire, ça m'est arrivé une fois, il y a 1 ou 2 ans, j'avais raconté, je monte dans l'avion, je ne sais plus d'où je revenais, mais j'avais acheté. Souvent, je profite, j'avais d'ailleurs raconté, je crois, ici au Grosse Tête déjà, mais je profite d'être à l'étranger pour acheter discrètement, on va dire, mes caleçons, vous voyez, mes slips.
Oui.
Mais,
parce que c'est jamais pratique.
C'est jamais pratique à Paris, évidemment, parce que voilà, tout le monde est là, regardez, ah, bah tiens, qu'est-ce qu'il achète comme caleçon. Bon. Alors, on profite, on est à l'étranger, on croit être tranquille, et là, il y a toujours deux Français qui vous voient. Et là, à peine je monte dans l'avion, je savais pas, moi, que les mecs étaient.
Ah, il a acheté des culottes.
Oui. Alors, comment ils sont les caleçons que vous avez achetés hier?
Et vous avez fait les essayages ?
Et je me dis, Jean-Phi devait être comme ça. Ça devait être pénible.
Oh, mais enfin, voyons.
Il a toujours été classe.
Non, il est discret, Jean-Phi.
Non, j'étais toujours discret. Jamais un mot plus au clos.
Non, il aurait dit, je peux essayer vos caleçons.
Mais moi, mes slips, maintenant, je les commande sur Internet. Je ne vais plus chercher.
Ouais, mais
drôle de
le pied avec la fermeture éclair à l'arrière.
Quand il y a une fermeture, Laurent.
Je crois qu'il est temps.
Ils sont pratiques, ceux-là.
Il est temps de passer à une première citation pour Arthur Cotta, qui habite Fribourg, en Suisse, qui a dit « Ma femme ne me manque jamais, elle vise trop bien. »
Groucho Marx.
Pierre Doris.
Non,
Coluche. C'est pas français.
Ah si, c'est français.
Alors c'est Jean-Yann. Blanche.
Non, non, mais on n'était pas loin.
Pierre Raymond DeVos.
On va dire c'est le successeur de Pierre Doris aujourd'hui. « Ma femme ne me manque jamais. »
Las Palès.
Elle vise trop bien.
Bigard.
Bernard Mabille.
Bigard.
Ah oui, c'est...
Il est mort.
Olivier de Benoît.
Bonne réponse de Caroline Diamant. Olivier de Benoît. Une question pour Eva Anzo, qui habite Grandris. Et c'est une question zoologique pour faire plaisir à notre ami Laurent Baffy.
Regardez ce...
Je vais vous demander le nom de l'animal chez qui c'est le mâle qui porte les œufs fécondés par la femelle pendant 2 à 3 semaines. Un animal dont on peut dire que sa seule façon de faire du bruit, c'est avec sa crête. De quel animal s'agit-il ?
L'hippocampe.
L'hippocampe. Bonne réponse de Caroline Diamant et Laurent Baffy.
C'est l'hippocampe, c'est quand ma bille plante sa tente, non ?
Je vais... c'est drôle, ça. Alors, ça, c'est marrant.
Vous saviez que c'était le mâle qui portait les œufs chez l'hippocampe ?
Le mâle, il a une poche incubatrice, il prend les œufs dès que la femelle les expulse. Et au bout de 3 semaines, il donne vie à 100 de petits hippocampes qui sont la réplique exacte des parents. Oh, c'est très, très émouvant, très beau à voir. Et la femelle se fait pucher avec la grossesse, elle a réglé le problème, elle file ça au mâle.
Il est attaché par la queue à une algue ou à une feuille, l'hippocampe. Oui. Ça qui est assez...
Famille des cingnatidés.
Pour éviter qu'il se noie.
C'est amusant, puis il y a une petite couronne, enfin ce qu'on appelle la crête, évidemment.
Une petite nageoire dorsale.
J'aime bien ce petit mouvement que vous faites avec la main pour nous signifier la crête.
Ou des fois qu'on ne saura pas que c'est là-haut, la crête.
Non, parce que la crête de coq, c'est en bas.
Mais oui, ça dépend.
Vous avez des crêtes où ça, vous ?
Je sais pas, j'ai des crêtes, j'ai pas des crêtes, moi, mais enfin, je vous montre où est la crête.
La crête, elle est...
Montrez-nous où il habite pour voir si vous suivez.
Non, mais enfin, écoutez, en tout cas, ça nous permet d'apprendre des tas de choses sur l'hippocampe, qui aussi, d'ailleurs, a une bouche qui lui sert d'aspirateur.
C'est une bouche tubulaire.
J'en connais une aussi, comme ça.
Je comprends pourquoi on m'appelle l'hippocampe.
On va te l'envoyer pour ton anniversaire, Stéphane.
Une bouche tubulaire, exactement. En fait, il a comme une paille.
Une paille.
C'est comme quand nous, on utilise une paille. L'hippocampe mange avec une paille.
Voilà. Il a déjà dans la bouche, en fait.
Sa bouche est une paille.
Sa bouche est une paille. C'est une bouche tubulaire.
Je les ai toujours vus sécher, moi, les hippocampes.
Oui, c'est interdit. Il ne faut pas acheter ça du tout.
Tu sais, vernis, séché, vernis.
Ah, ça, je vous offre ça parce que c'est aphrodisiaque, peut-être, monsieur Mabille.
Je ne sais pas, mais c'est...
Mais ça ne marche pas, manifestement.
Si on est raisonnable, on n'achète pas tout ça. On n'achète pas des éponges, on n'achète pas des hippocampes, on n'achète pas des étoiles de mer, on ne rentre pas dans ces boutiques.
J'ai acheté un coquillage, ça se peut.
C'est 2 ans ferme.
Qu'est-ce que vous avez acheté comme coquillage ?
Pour ma fille, elle n'écoute pas les grosses têtes. Alors, je me fais croire que je l'avais trouvée sur la plage parce qu'elle n'arrête pas de me donner des coquillages pourris en me disant « Tiens, maman, je les ai ramassés pour toi. » Je dis « Merci, je ne sais pas quoi me foutre. » Alors, je fais semblant de les garder un instant. Puis après, ils disparaissent miraculeusement. Je dis que c'est l'homme de ménage qui les a. Bon, bref.
C'est classe.
Et,
C'est classe.
Oh bah attends, tu gardes tout ce que fait ta fille, toi ?
Non, c'est l'homme de ménage qui est classe.
C'est un homme de ménage, oui.
On dirait Dombal, dis donc.
Mais non,
garde pas tout ce que fait ma fille, Isabelle, mais je lui dis franchement, je lui ai dit, tu danses très bien, tu chantes comme un pied et t'as pas un bon coup de crayon. Et
ouais, mais elle est alcoolique.
Non. Alors...
Elle a quitté la maison il y a 10 ans.
Oh, je dis, mon Dieu, c'est merveilleux, Maya. Et puis,
non, c'est émouvant, les cadeaux des enfants. L'autre jour, ma fille m'a ramené un collier de couilles, je l'ai gardé. elle a grandi.
Alors, résultat,
j'étais à Arcachon il n'y a pas longtemps et j'ai acheté un superbe coquillage pour bien lui foutre la honte, pour qu'elle mette la barre un peu plus haut avec ses coquillages pourris. Et j'ai dit que je l'avais trouvé sur la plage. Il est tout verni. Et puis, il y a marqué Arcachon, je l'ai vu. À l'intérieur, il y a marqué Arcachon. Elle n'a pas vu pour l'instant. Voilà.
Elle sait ce qu'a fait sa maman.
Ah bah oui.
Ah oui.
Elle crache.
C'est son portrait tout craché. Et elle en a fait quoi du coquillage alors?
Elle l'a mis sur son bureau et elle a trouvé que vraiment, j'avais choisi le plus beau coquillage du monde. Et
oh,
tout,
c'est
et
beau voilà. L'amour d'une jeune fille pour sa maman hein, quand même.
Ouais. L'anecdote est
elle doit dire à ses copines, cette conne n'a pas pensé que j'avais vu que c'était marqué Arcachon.
C'est vrai en plus. Elle doit se dire, je ne veux pas lui faire de la peine.
Ah, oui. Non, c'est à l'intérieur.
Bah, elle peut regarder à l'intérieur.
Vous lui chantez des chansons de soir?
Non, bah non, faudrait qu'elle dorme.
T'as raison.
Et puis elle a pas un essuie-glace sur le lit, non plus, la gamine.
Ils sont durs.
Quand on pense qu'elle est mère de famille, quand même, hein, ça fout la trouille. Hein.
Ah oui.
Elle aussi, apparemment.
Non, mais quand même, vous êtes de bonne humeur avec votre fille. De temps en temps, vous n'êtes pas
non,
comme avec
mais... Elle est comme moi.
C'est-à-dire?
On se fait la gueule le matin.
On se parle pas.
C'est vrai?
On se fait la gueule.
Ah oui?
Ouais, puis des gros câlins, mais elle est pas dans la... Alors je lui dis, mais merde, souris!
Oh là là!
Oh là 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 là! Oh non, mais t'es gonflé! Ah,
merde, mais souris quoi!
Quand tu vas quelque part, quand tu vois des gens, souris!
Bah non, mais c'est mignon votre vie de famille.
Oui, c'est mignon. Enfin, ça grandit. Elle fait du 37.
C'est pas vrai.
De pied. Bah oui. Ah oui. Pour vous donner
mais
un exemple.
Il paraît que les pieds poussent avant.
Comment ça, quoi,
ouais, avant. Chez les enfants, les pieds poussent avant. Et après, le reste suit.
Non, c'est moi, à 8 ans, je faisais pas du 37. Elle fait du 37, moi je fais du 38. L'année prochaine, elle me prend mes grands-là.
Ah, c'est ça qui te fait peur. Moi, ouais. Au lieu d'être fier que sa fille
grandisse.
Mais
t'as raison, parce que j'ai ma fille qui faisait du 45, elle mesurait 20 cm de haut. on aurait dit Monsieur Patate, tu sais.
Vous savez que j'ai vécu avec du Xanax pendant 20 ans parce que je stressais, j'avais une boule au ventre.
Ah ouais, ben elle est restée là.
Le nombril.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta boule?
Eh ben, elle est partie en 2012, du jour au lendemain. C'est la vérité absolue.
Qu'est-ce qui t'a libéré la boule?
Je sais pas. Alors, je suis jamais allé voir un psy. Et c'est parti. Non, Range, je t'assure, elle est partie du jour au lendemain. Mmh. Par exemple, on aurait eu un rendez-vous ce soir. Eh ben, deux heures avant, je sais pas, j'aurais commencé à pas être bien, à avoir un état nauséeux, à avoir la boule qui monte de l'œsophage. Mmh. Et puis, j'aurais annulé le rendez-vous quatre heures avant.
Barcelone, un mec à trois boules, c'est excitant quand même.
Peut-être que tu étais un saint de toi-même.
Ça veut dire quoi, ça, en psychologie, alors?
Non, il avait
parce que toi, t'es allé voir un psy, c'est quoi,
moi,
alors?
Moi, j'avais jamais vu de psy, non. Mais en psychologie, je suis pas psy, mais en mon avis, ce que ça veut dire, c'est que t'es débile, en fait.
Non, non, mais t'es vraiment trop brutal. Il a dit quelque chose de trop délicat
sur lui. C'est mignon, c'est vrai. Tu es hyper émotif, en fait.
Mais en plus, je suis sûre que toi, tu as une boule, même plusieurs, à l'intérieur.
On l'appelle la piscine à boule.
Ah bah on le surnomme la pétanque à Marseille.
Le petit cochonnet.
C'est con, mon Dieu. Oh, mais je te jure.
Mais c'est beau de douter, d'avoir peur, non?
Oh. Oh ouais, moi, toi, tu me touches énormément.
Voilà un beau couple, hein.
Alors, je vais vous dire la vérité. Au début, ma chouchoute, c'était Caroline.
Et maintenant, ça l'est plus.
Non, t'es toujours dans le top 3.
Ouais. Et... Ah, mais t'es en train de rétrograder au classement, hein. Tu veux être relégable. Bah, ça fait un an, il y a de la concurrence.
Quand vous vous masturbez, vous pensez à qui?
À Cristiano Ronaldo. À Sophie d'avant. Oh, affaire conclue.
C'est vrai.
Ça, vous êtes sûr que c'est pas Pierre-Jean Chalençon plutôt?
Il doit en être laissé de jours.
Je ne suis pas gay, contrairement à ce que vous pensez.
Non, mais c'est vrai. C'est
non,
vrai.
Non, pas encore.
Alors, une question maintenant de Madame Robert à Lyon. Alors.
Mais alors.
Il est déchaîné.
C'est inquiétant là.
Je pense qu'il a remplacé le Xanax par une solution plus.
Ouais. Heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Le mec, il a une arme qui tue tout le monde.
À mon avis, il doit picoler, il doit boire le gel hydroalcoolique.
Oui, c'est ça.
C'est ça, vous avez raison.
Une question pour Stéphane Thomas qui habite Viry-Châtillon dans l'Essonne. C'est en 1879 que cette personnalité que tout le monde connaît est devenue aveugle. Mais de qui s'agit-il?
Gilbert Montagnier?
Non.
Marie Ingalls.
Comment?
Marie Ingalls.
Excellente réponse d'Armel.
Bravo, Armel.
Mais alors, comment ça vous est venu?
J'ai pensé faire une blague parce que j'ai pensé à la petite maison dans la prairie. Je pensais pas que c'était la bonne réponse.
Ah, mais oui, parce qu'elle a vraiment existé, mais Marie Ingalls. Oui. La petite maison dans la prairie, c'est tiré d'une histoire vraie, d'un roman autobiographique. Et évidemment, Marie Ingalls a réellement existé. Et la vraie Marie Ingalls est effectivement devenue aveugle en 1879.
Oh là là.
Évidemment, le feuilleton, lui, il date du XXe siècle. Voilà pourquoi il y avait un piège dans la question, mais un piège qui a été effacé.
Oh, bravo,
par Mademoiselle Armelle. Bravo, bravo Armelle.
Vous vous souvenez du générique ?
Ah oui, allez-y.
La 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 la, la la la, la 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 la. Et à la fin, il y a la petite Carrie.
Non, je ne le reconnais pas.
Non, mais non, à la fin, il y a Carrie qui se casse la figure.
Oui, dans le
pas prévu. Mais comme si dans le
clip,
ils ont gardé.
La 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 la.
Ma préférée, c'était Anne
Thompson. Et là, il y a les jumelles qui se cassent la
gueule. Si vous continuez comme ça, on va tous se faire enfermer, mais dans un asile.
Vous regardiez ce feuilleton en Bretagne, et monsieur Rioux.
Même il y a quelques jours.
La
parce
petite
que,
maison.
La petite, et oui, parce que j'ai la, je la regarde tout le temps rodif.
La petite maison près des prairies.
Ah, moi j'aurais dit la petite maison dans la crêperie. Mais non, parce que ça passe tous les jours encore. Et comme j'avais un lumbago, j'étais couché pendant une semaine. C'est pour ça d'ailleurs, Laurent, que j'ai dû annuler vendredi dernier. Eh bien, en fait, j'ai regardé toute l'après-midi. Je regardais.
Et pourquoi ça n'a pas duré?
Mais c'est vrai que du coup.
Mais
il...
c'est véridique, je regardais tous les. En début d'après-midi, comme j'étais couché, j'étais vraiment pas bien, et ben j'ai adoré.
Mais non, mais il le passe en boucle depuis 20 ans, donc oui. elle est devenue aveugle en 2001, 2002, 2003, 2004.
Vous aimiez ça, Marie Ingalls, c'est la petite maison dans la prairie.
Oui, ma préférée, c'était Harriet Olson, la méchante qui tenait la boutique.
Ah, l'épicerie.
Très la blonde.
Et les, mon
il y en a plein, mais comme ça, à Neuilly.
Et Nelly.
Oui. J'en ai vu en arrivant au marché.
Et Nelly Olson, la vilaine.
Oh là.
Mais tu sais que dans la vie, ils étaient très amis.
En Argentine, il n'y avait pas ça, en fait.
Non, la capitaine, El Campo.
Ça rappelait trop le quotidien.
Non, il y avait la petite maison chez les nazis.
C'était de la télé-réalité pour vous.
La petite maison dans la Pampa, vous connaissez
non,
pas
non, c'était la, et ça s'appelait en réalité, là que tu as dit les noms, s'appelait la famille Ingalls, mais oui. C'était très mal vu, personne ne pouvait voir. Enfin, si quelqu'un les voyait, était considéré comme un con.
Ah oh, oui, non, non. Mais ici aussi, mais nous, ça ne nous gêne pas. Comment appelle-t-on l'épreuve de course en duo où la deuxième personne doit tenir le premier par le col et le fond du pantalon sans le lâcher?
La course au sac.
La course au sac, non, ça, on est tout seul dans la course au sac.
Ah, mais je ne sais que c'est que cette course.
Qu'est-ce que c'est que cette
course? Ça se court dans un pays européen?
Oh, c'est une course qui n'a plus cours, ou alors on fait ça encore de temps en temps dans les kermesses, les fêtes foraines.
À la queue leu leu?
À la queue leu leu, c'est autre chose, ça.
Oui, non, ça, on le fait toujours.
Écoutez, votre vie nocturne ne nous regarde pas.
Ah, oh, ben, je suis sage.
Généralement, c'est con.
La course à l'échalote?
Pardon?
La course à l'échalote.
La course à l'échalote. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo.
Et comment il sait ça?
Bah, il va dans les kermesses.
Et alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi?
Eh bien, la course à l'échalote, je viens de vous le dire. Oui, c'est deux personnes qui sont attachées. La deuxième est attachée par le col et le fond du pantalon à l'autre, et sans le lâcher. Et on doit courir plus vite que les deux autres ou tous les
mais
autres.
Mais Laurent, pourquoi ça a donné l'expression « c'est la course à l'échalote » hein?
Alors, parce que l'échalote, c'est le cul, c'est le derrière, l'échalote. Vous voyez, l'oignon, l'échalote.
Mais c'est plus l'oignon.
Mais vraiment, ça vient de là, mais je vous jure,
non,
ça vient de là.
Non, c'est vrai.
Ah, mais bien sûr. En argot, l'oignon désigne la fesse, l'anus, d'où l'expression « occupe-toi de tes oignons ». Et comme dans les plaisanteries populaires, on remplaçait parfois l'oignon par l'échalote, c'est devenu ainsi la course à l'échalote, ah, quand on est effectivement à deux à se tenir très collés et à courir ensemble, et à savoir lequel va aller le plus vite, Bernard.
Oui, oui, j'ai bien compris.
Le film était très drôle, le film de Claude Zidi avec Jane Birkin et Pierre Richard.
Ah oui, c'était marrant. Il n'y avait pas Victor Lanoux aussi, non?
Non, pas du tout.
Ah ben, j'ai pas vu le même, alors.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon petit Stevie? Non.
J'ai oublié. Franchement, je suis bon à rien et mauvais en tout.
Oh, oh, non.
C'est pas vrai. Bon à rien, oui.
C'est fou, non. Théâtre.
Ah ben oui.
Oui, c'est vrai, ça.
L'autre fois, je l'ai croisé dans un bar, t'étais en pleine forme.
Non, c'est
mais
faux.
Mais t'es plus avec ton amoureux?
Ah non.
Ah, c'est pas vrai.
Attends, on a trouvé un autre.
Célibataire.
Non, mais c'est terminé.
Il fait plus rien.
Vous avez fermé la boutique.
Ah oui, trois jours qu'il a rien fait.
trois heures.
C'est la déprime totale.
On
est voisins.
Ah, oui.
On va te présenter des gens.
Faites-vous prêtre.
Ah, bah, c'est encore pire.
Bah, ça me déplairait pas d'être cardinal, en fait.
tout de suite là. Tout de suite là.
Le père civil de la bouée, ah, ce serait bien.
Ah, ça aurait de la gueule.
D'immaculer dans les coins.
Oh là 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 là.
Ça aurait été bien en curé avec une belle calotte. Ah.
Bah, ça me déplairait pas d'être pape.
Ah bah, oh, carrément pas. Il y a deux minutes, c'était cardinal.
Ah non, mais on l'arrêtera pas.
Encore hein. 30 secondes et il se prend pour Dieu. Hein.
C'est le pour pape... ça, enchaînons.
Le pape Stevie.
Ah, ce serait drôle, le pape Stevie est arrivé.
Bourriquet et moi, on a décidé.
Oh, j'imagine la couleur de la fumée rose. Stevie est élu, Stevie est élu. Une question pour Marie-France Mathias, qui habite Fosse. Une question, vous allez voir, en rapport évidemment avec l'actualité, puisque je vais vous demander de retrouver le nom d'un ministre. Un ministre qui, quand il arriva à son ministère, déclara « point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt ». Et puis, quand il fut démissionné de son ministère, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?
Non, mais ils sont tous comme ça, au contraire.
Ah ben, sauf que lui, il voulait vraiment appliquer voilà, cette doctrine. Et quand il est parti, quand il a été débarqué de son ministère, il a dit « Mon désir est que vous puissiez croire que j'avais mal vu et que je vous montrais des dangers chimériques. Je souhaite que le temps ne me justifie pas et que votre règne soit aussi heureux, aussi tranquille, et pour vous, et pour vos peuples. »
Alors, il s'exprime trop bien pour être encore vivant.
Ouais, hein, c'est pas très jeune.
C'est au 19e siècle.
De quel ministre s'agit-il ? Ministre des Finances, vous l'aurez compris.
Colbert.
Colbert ?
Colbert, non.
Ah, on est si loin que ça.
C'est français, oui. C'est Mazarin. Français. Non, il a un nom pas français.
L-A-S-A-L-A-W.
Oui, L-O-W.
L-O-W, non.
19e siècle. On est dans quel pays ?
Alors, on est en France, madame.
Bah, alors, déjà, ça, c'est bien.
Il a été cardinal ?
Ah non, il n'a pas été cardinal. Il a été ministre de 1774 à 1776, c'est-à-dire avant la Révolution, un peu avant, et donc ses prédictions étaient justes, sauf qu'on ne l'a pas écouté.
Talleyrand.
Fouquet, non. Si vous aviez lu Mathieu Laine dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, vous le sauriez, car il consacre une page entière à ce ministre exemplaire.
Non, mais si maintenant il faut travailler avant de venir.
S'il faut travailler tout court dans la vie.
Il a des rues à lui, bien sûr.
Ah oui, oui.
Ah oui.
Des avenues même.
Ah oui, il est propriétaire.
Ah non, mais.
il joue au
Monopoly.
Ouais. Alors oui, il était baron, donc il a une particule. Mais je dois dire qu'on n'utilise jamais cette particule quand on parle de lui.
D'accord. Ah.
Il a un nom composé.
Il est mort en 1781, c'est vous dire qu'il n'a même pas connu la Révolution.
Tant mieux pour lui.
C'était un grand économiste français du 18e siècle.
Il est mort de quoi, Laurent ?
Oh, écoutez, alors ça, j'en sais rien.
On s'en fout, ça nous aidera pas.
Si ça peut. S'il dit il est mort dans sa baignoire, on sait que c'est soit Marat, soit Claude François.
Claude François,
ça, c'est drôle.
Économiste.
Oui. Mais c'est pas gentil pour son filleul qui est ici,
oh, pardon,
qui a la larme à l'œil à chaque fois, évidemment, que vous en parlez.
Il est vraiment un gros con. Bernard.
Non, il est pas si con.
Moi, je pense qu'on connaît pas son nom.
Ah oui, nous,
si,
oui.
Ah, si. Bah, si, même moi.
Non, on connaît la rue, sûrement. Sans savoir que c'est un ancien ministre des Finances.
Est-ce que vous nous diriez le quartier où se situe sa rue ?
Est-ce que c'est dans le 8e ?
Est-ce qu'il a une station de métro, une station Vélib, ou quelque chose ?
Ah oui. Une station de métro, ça, c'est du lourd.
Pas bête, c'est pas mal.
Une station de métro, non.
Un arrêt de bus ?
C'est que s'il est passé.
Est-ce qu'il a un nom de rue qui a été saccagé il y a quelque temps ?
Oh non, écoutez, non.
C'est pas Kléber.
Non, c'est pas Kléber. Ah non, Kléber, c'était un général d'Empire, monsieur.
Oui, je le sais. Pourquoi
tu le dis si tu le sais ?
Bon, alors attendez, parce que là, on rame.
Moi, je propose qu'en trois briques.
Il a été secrétaire d'État à la Marine, contrôleur général des finances.
Ah, Condorcet.
De Louis XVI.
Lafayette.
Vous voyez.
Carnot.
Lafayette, non.
Est-ce qu'il a un lycée à son nom ?
Ah oui, un lycée, oui.
Jean-Luc Lahaye.
Ça, c'est vrai, tiens, il y a un lycée.
Henri IV.
À Paris.
Lycée Turgot.
Louis le Grand.
Turgot.
Ben, c'est Turgot. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Eh bien, voilà.
Oui. Quel talent.
Bravo.
Comme quoi.
Je ne sais pas pourquoi.
Tu fais la sortie des lycées, ça sert, tu vois.
Madame Diamant, pourquoi vous vous maquillez, vous remettez du rouge à lèvres devant les caméras de Paris Première ?
Parce que j'ai oublié qu'on était filmé.
Mais qu'elle veut rester sexy.
Et j'avais la bouche un peu sèche.
Donc tu mets du gloss ?
Qu'est-ce que tu veux que je mette ?
Tu veux que j'aille te chercher ta truelle ?
Non, je pense qu'elle a servi à maquiller ta mère et ta femme.
Laisse ma mère tranquille.
La mère et la femme.
Ah, écoutez,
monsieur,
j'essaie j'essaie d'élever le niveau.
Mais
en posant des questions sur Turgot.
Ils ont beau essayer de m'imiter, ils seront jamais aussi vulgaires que moi.
Quand même, vous auriez pu trouver Turgot, monsieur Bénichou. Et vous aussi, madame Ockrent.
Il faut qu'on... Oui, monsieur Turgot.
Il faut que ce soit l'autre con qui...
Moi, je prends ça comme un compliment.
qui aille au lycée Turgot pour que vous retrouviez quand même Turgot, qui était baron quand même. J'aurais pu évidemment vous aider, mais c'était pas facile quand même de retrouver.
Non, mais c'était pas la peine d'aider quand tu es un intellectuel, ça va.
Anne-Robert-Jacques Turgot, baron de l'Aulne.
Anne. Anne-Robert.
Anne-Robert-Jacques Turgot.
Bonjour Turgot, ben voilà pourquoi je le connaissais.
Le MD2 est le plus produit dans le monde, devant le Cayenne Lys et devant le Victoria. De quoi s'agit-il ?
Ça se mange ?
Ah, ça se mange.
C'est quelque chose qui est fabriqué ou qui pousse naturellement ?
Ah non, ça pousse naturellement.
Donc c'est un fruit.
Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs variétés.
C'est un ananas ?
Du poivre, non ?
Et c'est un ananas ! Bonne réponse de Marcela Yacoub.
Ah bah oui, le Victoria, c'est le meilleur.
Eh ben oui, le Victoria, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il est sucré.
Le tout petit.
Et très peu acide, le Victoria.
Long. Non, le long, c'est l'ananas normal.
Et non, il y en a un long, très long.
Je parle pas de celui-là, je te parle de...
ne t'énerve pas, Christine, mais c'est m'énerve. Pas grave. Il paraît que l'ananas...
On en a de l'ananas ici, mais croyez-moi, on s'en paiera pas une tranche.
Ah, qu'est-ce qu'il est... Oh là là,
non, mais il paraît que l'ananas donne bon goût au sperme.
Oh, oh non, voilà autre chose.
Mais non, mais on m'a dit ça.
L'inverse est moins vrai.
Qui t'a dit ça, ton grand-père ?
Mais non, j'ai dit on m'a dit. J'ai pas dit mon grand-père.
Tu compris ton grand-père ?
Dis donc, Christophe, tu vas bientôt nous sortir un livre de cuisine.
Ben, il faut bien reprendre la maison, hein, c'est normal.
Vous savez comment on dit ananas en anglais, Chantal là-dessous ?
Ananas.
Non, pas
non,
du tout.
On dit pineapple.
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 Oui. Puisqu'elle ressemble à la pomme de pin qui incita les Anglais à l'appeler ainsi. C'est vrai, ça ressemble à une pomme de pin,
ouais,
l'ananas.
Bien, vite fait. Hein.
J'adore l'ananas. C'est très,
c'est
très
bien. C'est un peu chiant épluché. Hein.
L'ananas.
Ah ouais, ouais. Ouais.
Mais il faut l'acheter épluché.
Non, oh non,
mais bien sûr.
Feignasse.
Achète son ananas épluché.
Ah, mais toujours.
Tu l'achètes en boîte.
Non, non, il faut pas.
Non, pas en boîte. Dans des magasins. Dans des magasins, que l'employé te coupe ça.
L'employé. L'esclave dans les magasins.
C'est nul. C'est pas compliqué.
Moi, de toute façon, je me fais toujours livrer un ananas avec un cubain.
Ah, mais oui, c'est ça.
Et ainsi, on pourrait chanter, évidemment.
Ben ouais.
Ananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Ananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. Oh, on avait oublié cette chanson dedans.
C'est une chanson de Lynn Renaud. Oui.
Mais que font ces garçons tout bronzés qui se promènent sous les bananiers? Oh, mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers.
Je vous jure que c'est bien vrai.
Qu'est-ce qu'ils vous donnent de bon à manger? Des bananes sous les bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter.
Ben là, jamais chanté ça.
Je vous jure,
c'est pas vrai.
Je vous jure,
Bananas Island.
On l'a fait passer à Lynn Renaud. Elle nous fait croire qu'elle n'avait pas compris les paroles. Oh. Elle nous fait le coup de France Gall. Oh. Non, mais écoutez, oui, franchement.
Donc, elle n'avait pas 14 ans quand elle l'a chanté. Hein.
Écoutez, Lynn Renaud.
Mais qui sont ces garçons tout bronzés qui se promènent sous les bananiers? Mais que font ces garçons tout musclés?
Ils attendent sous les bananiers.
C'est fou,
qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers?
Les fruits sauvages de leurs bananiers.
Et tu crois que c'est bon à manger?
Ouvre la bouche et viens les goûter.
Ah, mais c'est formidable.
Bananas.
Wow, 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 ah oui.
Bananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Bananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. Bananas Island,
c'est une île qu'on n'oubliera jamais plus.
Ah bah non.
Ah non, tu m'étonnes, ça. On s'en rappelle.
Elle est marrante, Lynn Renaud, quand même. J'adorerais qu'elle fasse les grosses têtes avec nous.
Ah, pourquoi pas?
Bah, invitez-la.
Ah oui, on va lui demander de venir. Oui.
Mais elle est beaucoup trop chère.
C'est vrai qu'on s'imagine avec des chansons de gens dans la plage, avec plein de choses, non?
Ben, c'est ça.
Ah c'est oui,
ça.
C'est le principe.
On sent même la chaleur, le soleil. J'ai même senti le soleil, pour dire.
Eh ben voilà.
Je crois qu'on a perdu maman là.
Ah, oui. Oui. Oh, cette chaleur, ce soleil, ces grosses bananes, il ne peut plus me tenir.
Non, rhabillez-vous, Marcella.
Elle est toute excitée, regardez-moi ça.
Non, mais c'est vrai que tout d'un coup, on a l'impression qu'on court dans la plage, en fait.
Dans la plage.
Ah oh, oui, sur la plage. Je sais pas comment on dit, dans la plage ou sur la plage.
Dès que tu vois une banane, tu cours, toi, de toute façon.
On dit sur la plage, on dit pas dans la plage, on dit dans la mer, dans l'eau, mais sur la plage.
Sur la plage.
Sauf, ouais. Sauf si vous rampez à l'intérieur du sable.
Vous allez sur quelle plage, vous, Marcella ? Parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui sont intéressés pour venir vous enduire l'été prochain.
Paris-Plage.
Oui. Non, elle aime pas Paris-Plage ?
Non, je n'aime pas Paris-Plage, mais.
Les Parisiennes et les Parisiens adoraient vous enduire.
Non, mais c'est vrai
que
j'aime bien les plages, enfin, mais. Mais je n'y vais pas depuis longtemps, mais...
Paris-Plage, tu regardes passer les péniches.
Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ?
Rien.
Mais tu pars jamais ?
Non, jamais, jamais. J'ai lu, j'ai écrit, tout le temps.
Chez toi ?
Ouais.
Tu restes chez toi, la fenêtre ouverte ?
Et toute nue, voilà.
Ça, c'est une question que j'aurais jamais pensé poser à quelqu'un.
Mais il fait chaud à Paris l'été.
Est-ce que tu ouvres tes fenêtres ?
C'est pas du tout extérieur comme fille.
Mais toi, t'as des questions.
Les interviews de Chantal là-dessus.
T'ouvres tes fenêtres extérieures. Non, mais tu te rends compte, Chantal.
T'as pas envie de te balader au Luxembourg avec les petits oiseaux
non, parce que je peux pas rentrer à cause de mon chien. On ne me laisse pas rentrer.
Ah, mais il y a des endroits où on peut rentrer avec un chien quand même.
Oh, pas beaucoup.
Au bois de Boulogne, tu peux aller.
Voilà, au bois de Boulogne. Ah oui, ça te rappellera des souvenirs.
Une question pour Jean-Claude Esnault qui habite Tours. Cora Peterson, en 1966, était à bord du sous-marin Proteus. Mais pour faire quoi ?
Pour le baptiser ?
Non.
Un record ?
Un record, non.
C'est un sous-marin français ?
Ah non, non, non.
Américain ?
Américain, oui.
C'est un gros sous-marin ou un petit sous-marin ?
Ah, c'est un petit sous-marin.
Ça, alors, c'est une femme, quoi.
Alors, je peux pas vous dire mieux. C'est une excellente question, monsieur Junio.
Merci, merci. Un genre de bathyscaphe.
Alors, oui, vraiment petit sous-marin.
Pour repérer le Titanic.
Il n'était pas dans le...
Pour localiser le Titanic ? C'était pour localiser le Titanic ?
Non, on est en 1966 et Cora Peterson prend place à bord du Proteus, un sous-marin.
Pour faire une pipe à Cousteau. Non.
Ah, mais c'est une bande dessinée, non ?
Ce n'est pas une bande dessinée.
C'est un film. Un film.
C'est 20 milieux sous les mers.
Ah, oui.
Ce n'est pas 20 milieux sous les mers.
L'aventure extraordinaire quand ils deviennent tout petits et qu'ils vont dans le corps. Là.
Et qui donc est Cora Peterson ?
Raquel Welch.
Raquel Welch, bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Expliquez, Jean-Jacques.
Eh bien, c'est-à-dire qu'on les rapetisse et on les envoie dans le corps humain. C'est le voyage extraordinaire.
L'aventure intérieure.
Le voyage fantastique.
Et ils sortent à la fin par une larme.
C'est un film qui date de 1966.
Richard Fleischer, non ?
C'était exactement. C'est quand même un film à l'époque, quand même. Fallait y penser à ça.
Parce que Bouvard a fait le casting.
Non, parce que là, aujourd'hui, on va avec des caméras dans tout le corps humain, mais à l'époque, en 66, ils envoient effectivement à bord d'un sous-marin miniature différents scientifiques, et parmi lesquels une femme, Cora Peterson, jouée par Raquel Welch, et ils envoient toutes ces personnes dans le corps humain. Ça s'appelle le voyage fantastique. Et Raquel Welch était évidemment d'une beauté.
Oh là là, je n'en suis encore que raideur.
Extraordinaire.
Ben c'était ma partenaire, rappelez-vous, dans le chalet. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ah mais je me souviens, mais ça par cœur, monsieur Fabrice.
Raquel Welch dans le jeu du couple.
Sur RTL, pendant des années ici, vous demandiez à un couple, ça s'appelait l'accord parfait.
Oui.
Et vous demandiez au couple, alors, vous demandiez d'abord au mari.
Oui.
Vous demandiez au mari... Monsieur, vous êtes bloqué 3 jours et 3 nuits dans un chalet avec Raquel Welch. Oui. Au bout de combien d'heures craquez-vous ? 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures ? Le mari disait...
10 minutes.
10 minutes. Et puis après, alors, la femme avait le casque sur les oreilles. Oui. C'était un peu comme Tex et les amours, vous voyez ?
Oui, oui, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Oui. C'était exactement la même chose.
Et puis après, vous demandiez à la dame et la dame, elle disait « Oh non, il craque pas, mon mari. Mon mari, il y touche pas, Raquel Welch. »
C'était tu beau. Parles.
Vous êtes le Alain Decaux d'RTL. Hein. RTL est vendu, mais là, vous nous racontez la station.
Ah bah oui, mais enfin, Gérard Jugnot, lui, il est allé faire caca chez Raquel Welch, je vous rappelle.
T'imagines ?
C'est vrai, t'as osé faire ça ?
Mais elle n'était pas là, malheureusement.
Mais comment vous saviez alors que c'était chez elle ?
Elle vivait avec un Français qui s'appelait André, je ne sais quoi. Un copain de Devers, et quand on était à Los Angeles, il nous avait invités chez Raquel Welch.
Et donc, j'ai pris d'une envie, je suis allé dans ces toilettes, voilà, c'est tout.
C'est dingue, hein. Allez, c'est aussi ça l'histoire, hein.
Bah ouais, t'as le sens des voyages. Ah,
ouais. Allez, chez Raquel Welch, quand elle n'est pas là, ça n'a aucun intérêt.
Et hein. Raconte quand t'as gerbé chez Marilyn Monroe.
Ah non, mais moi, je pensais que vous l'aviez vu, Raquel Welch.
Jamais. Non, j'ai vu des photos dans ces...
T'étais peut-être dans le pavillon du gardien.
Ouais. Non, je me suis assis là où elle s'asseyait de temps en temps.
Et vous, Fabrice, vous l'avez rencontré ou pas,
Raquel Welch? Non. Malheureusement. Oh,
après en avoir parlé pendant tant d'années.
Mais je sais bien. Je
tous
sais
les
bien
jours, il y avait une question sur Raquel Welch. Tous les jours.
Il a fait sa carrière. Hein.
Tous les jours.
Mais raconte quand t'as fait popo chez Annie Cordy.
Stéphane Lemarche espère 300 euros. Il habite Tilly-Sol dans le Calvados. Et il a ses chances car j'ai choisi une charade.
Ouais. Pour... charade.
Pour associer son nom à une question. Parce que Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza me réclament des questions oui à leur niveau. Voici donc une charade.
Ouais.
Une charade un peu amusante, vous voyez.
Ouais.
Mon premier est une ville italienne. Mon deuxième est une île française. Mon troisième est une ville fortifiée. Mon quatrième est un hydrocarbure gazeux.
Oh là là.
Mon tout s'est passé en 1821. De quoi s'agit-il ?
Waouh !
Je crois que la deuxième syllabe, c'est Ré.
Ré.
Ah oui.
Eh ben non. Eh ben même pas.
Je pense pas, je pense pas que ce soit Oléron. Hein.
Eh ben si.
Ah,
le Boléron de Ravel.
Le deuxième, effectivement, c'est Oléron.
Oléron.
Alors,
ville fortifiée.
Mon premier est une ville italienne. Ouais. Mon deuxième est une île française. Vous avez Oléron, bravo. Mon troisième est une ville fortifiée. Mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Mon tout s'est passé en 1821.
Ville italienne. Est-ce que ce serait Pise?
Pise, non.
Venise.
Venise, non plus.
Florence.
Naples.
Naples, oui.
Ah,
Naples-Oléron est mort à Sainte-Hélène.
Ah, excellente réponse. Attendez. Vous avez trouvé l'événement, mais c'est mieux de trouver quand même.
Oui, alors Naples.
Alors, mon premier est une ville italienne.
Naples.
Mon deuxième est une île française.
Oléron.
Mon troisième est une ville fortifiée.
Aigues-Mortes.
Aigues-Mortes.
C'est ma ville, en plus. Et c'est ma ville.
Ah oui.
Et mon quatrième est un hydrocarbure gazeux.
Acétylène.
Acétylène. Naples, Oléron, Aigues-Mortes, acétylène. Bonne réponse de Florian Gazan.
Ben dis donc... Ça, c'est de la devinette.
Heureusement que c'était pour nous, parce que dis donc...
Regardez la tête de Bénichou.
Non, mais alors... la pierre chute.
Non, j'ai jamais vu la culture foulée aux pieds comme ça.
Mais si
Saint-Hélène, c'est à Sainte-Hélène. Oh, non. Non, mais écoute...
Il était bien logé, Napoléon, tu sais, il avait un Bonaparte.
Ah
bah ça y est, moi je suis reparti, j'ai lâché les chiens là. Vive la culture. Napoléon. Ah, c'est Tylène. T'as compris le truc?
Ouais.
C'est subtil hein.
Quand on était petit, on chantait Napoléon. Et mort à Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène. Et mort Napoléon.
Bah, puisque vous aimez les devinettes, j'en ai une autre.
Hein. Oui, ah, ouais, ouais,
super. Ouais.
Pour Christiane Liaume qui habite Frières-Failloël, c'est dans l'Aisne. Quel point commun y a-t-il entre un bouchon, Satan et Marseille ?
Un bouchon, ça doit être flotte, quelque chose
goulot,
comme ça.
Goulot ?
Pas du tout.
Liège ?
Liège, non.
Goulot ?
Goulot, non.
Est-ce que la référence à Marseille, c'est un lieu de Marseille, genre la Canebière ?
Non, mais c'est lié à l'aspect géographique de la ville de Marseille, c'est vrai.
Il y a bouchon, Satan, à Satan, oui, d'accord.
Bouchon, Satan, Marseille.
Bouchon, Satan, la ville.
Qu'est-ce que vous dites, monsieur Plaza ? Allez-y. Faut tout essayer, vous savez.
Ouais.
C'est une devinette à la con.
Ouais.
Un bouchon, Satan, quoi, t'as dit?
Il a dit Satan, la bite, je l'ai entendu, moi.
Ah, bah, t'as pas le répéter.
Satan.
Il y a une tour rouge.
C'est tout rouge, c'est vrai. Ah,
arrêtez.
Alors, Marseille, c'est les Bouches
du Rhône. Je réfléchis comme ça à haute voix.
Marseille, c'est les Bouches du Rhône.
C'est de la Bouche
du Rhône, ouais. Bouche du Rhône.
Alors, vous avez effectivement trouvé Marseille, Bouche du Rhône.
Voilà, le bouchon, Bouche du Côte du Rhône.
Voilà.
Et Satan bouche...
Vous avez trouvé, hein. Bravo, bravo Florian. Bouchon, Le bouchon bouche la bouteille et Marseille bouche du Rhône. Voilà, bravo.
Et ça t'embouche
à quoi?
Ah la vache. Alors, tout ça pour fourrer un jeu de mots. Il est mignon. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore pour ça, regarde. Il s'est levé, à 6h du matin pour faire juste cette devinette.
Mais tu sens un gamin qui a reçu un nouveau bouquin.
Il est trop content.
J'adore.
Il est trop mignon. Ouais. Il a reçu le journal de Mickey.
Les devinettes pour les nuls.
Ça bouche à quoi.
C'est mignon. C'est jeune et frais. Hein.
C'est ah, vous méritez les 300 euros, Laurent. J'ai envie de vous les donner.
Pierre, franchement, vous n'êtes pas dans le coup, là.
Pourtant, j'adore vos plaisanteries. Mais comment faites-vous pour en rire? Je n'y arrive pas moi-même.
Je suis payé pour mettre de l'ambiance.
Bah ouais, voilà, ouais,
c'est vrai, ça détend les gens. Ça fait un peu de légèreté, Kojab. Ouais.
Bien sûr. Il vaut mieux se mettre bien avec les vedettes qui montent. Ah oui.